Let's bow our heads now for prayer.
Inclinons nos têtes pour la prière.
Gracious Heavenly Father,
Père céleste plein de grâce,
the Almighty God,
Dieu Tout-Puissant,
who brought again Jesus
qui a ramené
Christ
Jésus-Christ
from the dead
d'entre les morts
and has presented him to us in this
et nous l'a présenté en ces derniers jours
in the power of the Holy Spirit,
dans la puissance du Saint-Esprit.
We are grateful for these
nous te sommes reconnaissants pour ces puissantes visitations du Dieu immortel. Et maintenant, Père, nous faisons face à une autre heure, une heure qui pourrait changer la destinée éternelle de beaucoup de gens. Et pour nous approcher de ceci, Seigneur, nous sommes insuffisants parce qu'il est dit dans les Écritures que c'est l'agneau qui a pris le livre. Il en a ouvert les seaux. Ô agneau de Dieu, approche-toi. Nous t'en prions. Nous t'invoquons, Seigneur. Grand Rédempteur, avance-toi et montre-nous ton plan de rédemption qui a été caché tout au long de ces années. Brise pour nous ce cinquième seau ce soir, Père, et révèle-nous ce qui est sous ce seau, afin que nous puissions nous en aller en étant de meilleurs chrétiens que maintenant, que nous soyons plus propres et adaptés à la tâche qui nous attend. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir les amis, je considère que c'est un grand privilège d'être ici ce soir pour ce grand événement. Je ne connais pas d'endroit où je pourrais me sentir mieux qu'ici à travailler à l'œuvre du roi. Et maintenant, pour en venir plus particulièrement à ces leçons auxquelles nous nous attendons, s'il ne m'accordait pas sa révélation, je ne pourrais pas vous la donner. Je n'essaie pas d'utiliser aucune de mes pensées ou quoi que ce soit, simplement comme il le donne. Et je suis sûr que si je n'utilise pas mes propres pensées et que cela vient comme c'est toujours venu dans toute ma vie, ça n'a jamais été faux, ça ne sera pas faux cette fois non plus. C'est tellement glorieux et nous sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. C'est la main mystérieuse et glorieuse du Dieu vivant. Que pourrait-il y avoir de plus grand? Quel genre plus privilégié pourrions-nous être que d'avoir en notre présence le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Nous pourrions faire siffler les sifflets, hisser les drapeaux et dérouler les tapis et tout le reste si le président de la nation venait dans la ville. Ce serait très bien et cela honorerait la ville. Mais pensez que dans notre humble petit tabernacle ici, nous invitons le roi des rois. Voilà là. Et il ne désire pas qu'on déroule des tapis et tout le reste. Il désire des cœurs humbles qui soient étendus afin qu'il puisse prendre ces cœurs humbles et leur révéler les bonnes choses qu'il a en réserve pour tous ceux qu'il aime. Nous avons reçu un témoignage que j'aimerais vous donner. Si je ne me trompe pas, je viens de l'entendre. Il se pourrait que je me trompe, mais je crois que les gens sont ici auxquels ce témoignage s'applique. Il y a quelques jours, alors que j'étais là chez moi en Arizona, nous avons reçu un appel disant qu'il y avait un petit garçon atteint de fièvre rhumatismale, et cela peut aller jusqu'au cœur. Son père et sa mère sont de très chers amis. L'un de nos diacres ici, de l'église, frère Collins, son petit garçon, le petit Mikey, le camarade de jeu de Joe, souffrait de fièvre rhumatismale du cœur. Les médecins l'avaient renvoyé à la maison, mis au lit, et avaient dit aux parents de ne pas le laisser se lever, ni même le soulever pour lui donner à boire. Tellement il allait mal. Il devait boire avec une paille, et les parents, pleins de foi, sont venus au tabernacle, et ils croient. Nous avions annoncé les services de guérison pour dimanche, mais voyant que nous allions devoir répondre à des questions, nous avons dû supprimer le service de guérison. Pourtant, j'avais un petit quelque chose sur le cœur, à l'intérieur. La mère et le père voulaient savoir s'ils pouvaient amener l'enfant dans la pièce là, et ils apportèrent le petit à l'extérieur et le Saint-Esprit l'a prononcé guéri. Les parents ayant respecté cela ont ramené le petit à la maison et l'ont envoyé à la maison, simplement envoyé à la maison. Et le médecin l'a appris. Le médecin n'était pas très content de cela. Ainsi, il a dit à la mère que le garçon devait être au lit, mais elle lui a raconté l'histoire. Et je crois que cet homme, à ce que je comprends, est un croyant chrétien d'une dénomination, les Adventistes du septième jour. Et il a dit, il est temps que j'examine l'enfant. Vous auriez dû au moins le faire examiner. Très bien, elle a amené l'enfant, et le médecin l'a examiné. Le sang où la fièvre rhumatismale se loge, j'ai appris que le médecin était tellement stupéfait qu'il ne savait que faire. Le petit garçon était parfaitement normal, bien et en bonne santé. Est-ce que les Collins sont là? Je l'ai peut-être mal raconté. Est-ce que c'est juste, Sir Collins? Oui. C'est le petit Mikey Collins, 6 ou 7 ans. Et c'est arrivé là, dans la pièce, il y a environ 3 jours ici. Oh, il fallait qu'il y ait quelqu'un dans cette salle, en plus des êtres humains. Le glorieux et puissant Jéhovah, c'est vrai, est venu pour honorer sa parole. Je suis si reconnaissant d'entendre cela. Et je sais que nous le sommes tous, pas seulement moi, mais nous tous parce que, qu'en serait-il si c'était votre petit garçon ou mon petit garçon? Et souvenez-vous, en donnant le témoignage, c'est juste un parmi d'autres. Ça arrive partout, mais c'est juste pour vous montrer que mon véritable ministère est la guérison divine. Mais je suis ici pour ces sceaux, parce qu'un petit peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi je devais faire ceci. Ainsi, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un théologien, je prie simplement pour les malades, et j'aime le Seigneur. Hier soir, nous avons donné le témoignage de la petite fille, j'ai son nom, et Billy l'a ici quelque part, celui des parents qui ils sont. Cette petite fille était au dernier stage de la leucémie. C'était si grave qu'on ne pouvait plus la nourrir par la bouche, elle devait avoir des transfusions de sang. Elle était si mignonne, elle était petite pour son âge, comme cette petite demoiselle ici, je pense, elle n'était pas plus haute que cela. Ils étaient comme la plupart d'entre nous, vous pouviez voir d'après les vêtements de l'enfant que les parents étaient très pauvres, vraiment très pauvres. Mais réellement respectueux, et le Saint-Esprit a prononcé cet enfant guéri. Pensez simplement à cela, la leucémie. Cette petite, le sang était si mauvais qu'on ne pouvait même plus la nourrir par la bouche. Elle avait dû aller à l'hôpital et avoir des transfusions par les veines pour la nourrir. Je crois que c'était du glucose ou autre chose. Je ne connais pas les termes médicaux concernant cette maladie, mais elle devait être nourrie ainsi. Et avant que l'enfant quitte l'endroit, elle a demandé un hamburger. Et après avoir entendu ça, le « ainsi dit le Seigneur », voyez-vous. Et ce sont des étrangers. Ils n'étaient jamais venus ici auparavant. Mais un brave vieux couple leur avait trouvé des places quelques minutes avant, frère Richard Kidd, et les avait instruits sur ce qu'ils devaient faire et écouter. Et l'enfant a mangé son repas en rentrant à la maison. Deux ou trois jours après, elle était à l'école. Elle est allée chez le médecin. Il était tellement étonné. Il a dit, on ne trouve même plus la moindre trace de leucémie chez cet enfant. C'était instantané. La puissance du Dieu Tout-Puissant a pris un système sanguin et l'a purifié complètement, a rétabli la pulsation, une nouvelle vie, parce que votre système sanguin, c'est votre vie mortelle. C'est lui qui crée les nouvelles cellules et il a éliminé les anciennes. Et ce que c'est, je vais vous le dire, je dirais cela, c'est un acte créateur du Dieu Tout-Puissant que de prendre un système sanguin contaminé par le cancer au point que cette petite était jaune, enflée, et après quelques instants, un tout nouveau système sanguin. Je crois, je ne vais pas parler en son nom, je vais parler selon la révélation de ma foi, ce qui s'est passé l'autre jour au Sabino Canyon. Je crois que l'heure approche où des membres manquants vont être restaurés par la puissance glorieuse du Créateur. Je crois que s'il peut faire apparaître un écureuil ici, à combien plus forte raison en sera-t-il pour un homme ou une femme à qui il manquerait un membre? Il est Dieu. Je l'aime. J'ai commencé à parler sur ces sujets et je m'aperçois que je continue à parler alors qu'il y a des gens debout dans la salle, les couloirs et partout. C'est pourquoi je vais en venir directement au message et je veux dire ceci. Je voudrais adresser mes remerciements à celui qui est omniprésent. Aujourd'hui, ne sachant pas la moindre chose au sujet de ce cinquième sceau, il est venu de la même manière mystérieuse ce matin, environ une heure avant l'aube, alors que j'étais dans la prière. Et je me suis tenu ces cinq ou six derniers jours dans une petite chambre, sans voir personne. Je ne sortais que pour prendre mes repas avec quelques amis, certains de mes amis ici. Bien sûr, vous savez qui ils sont, ces frères et sœurs Wood. Et vous savez, je suis allé là, je suis resté avec eux, et tout le monde était gentil avec moi. Et j'essaie de rester directement avec ce message des sceaux. C'est important. C'est l'heure, le temps de la révélation. La révélation. Et je voudrais que vous soyez sûr maintenant, dès que vous pouvez, écrivez ce que vous ne comprenez pas au sujet de ces sept sceaux et déposez-les sur le bureau. Et frère Neville ou quelqu'un pourrait peut-être mettre une boîte. Ah, j'en vois. Oui, frère Evan, ce soir. Et je pourrais peut-être les étudier pour dimanche matin. Cette fois-ci, ne faites pas de requête comme est-ce que ceci est l'évidence du Saint-Esprit, mais j'aimerais en avoir sur ce que je viens de vous enseigner afin de ne traiter que ce sujet comme nous l'avons fait pour les âges de l'Église, parce que c'est ce dont nous occupons maintenant. C'est comme quand nous prions pour les malades. C'est une sorte de prière différente et une onction pour une chose différente, vous savez. Vous cherchez Dieu pour trouver. Y aura-t-il quelqu'un là ce soir, Seigneur? Oui, ce sera quelqu'un qui porte une robe jaune qui sera assis dans le coin à droite. Et quand tu l'appelleras, donne-lui ceci et cela, ce qu'elle a fait, et qu'elle a ceci et cela, et tu descendras là et tu observeras et elle sera là. Voilà. C'est différent. Ainsi, je prie, Seigneur Jésus, quelle est l'interprétation de cela? Révèle-le-moi. Maintenant, prenons notre épée à nouveau, la parole. J'apprécie le soutien spirituel de frère Neville ainsi que son affection fraternelle. Il est là derrière moi, priant pour moi ainsi que vous tous ici. Et maintenant, ce soir, c'est vendredi soir, nous ne pouvons parler de tous les points. Si nous prenions un seul de ces sceaux, et l'amener aux Écritures directement. Il faudrait des mois et des mois, et on n'aurait pas encore fini, parce que le sceau lui-même relie toute l'Écriture de la Genèse à l'Apocalypse, un seul sceau. Ainsi, ce que j'essaie de faire, c'est d'éviter de m'en éloigner. Je note un passage de l'Écriture, ou une petite note, et j'essaie de ne pas m'y attarder trop longtemps. Je dois veiller parce que, quand je parle, J'espère que c'est l'inspiration correcte. Et si je commence à parler et que je sens que je m'éloigne de mon sujet, je reviens en arrière, regardant dans une autre direction pour essayer de trouver un autre passage des Écritures pour continuer, vous voyez, afin de donner un peu de lumière pour l'éclairer de ce côté-là, au lieu d'essayer de continuer dans la direction. Nous allons étudier ce soir, par la grâce de Dieu et avec son aide, le cinquième sceau. Il est court, mais un peu plus long que le précédent. Les quatre cavaliers avaient deux versets chacun. Celui-ci en a trois. Le cinquième sceau commence donc au sixième chapitre de l'Apocalypse, au verset 9. Si vous êtes étranger ici, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ces quatre cavaliers, voyez. Quelquefois, vous revenez en arrière et prenez un embranchement, et en ce faisant, vous vous attendez à ce que les gens comprennent. Ainsi, s'il y a un petit quelque chose que vous ne comprenez pas, prenez patience et écoutez la bande, et je suis sûr que vous en retirerez une bénédiction. J'en ai reçu, j'espère que vous aussi. Maintenant, tout le monde est-il prêt? Au verset 9 jusqu'au verset 11. Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et il cria haute voix, « Jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposent encore une petite saison jusqu'à ce que leurs compagnons d'esclavage, aussi leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, soient accomplis, soient au complet. Ceci est assez mystérieux. Et à cause de bandes magnétiques, des pasteurs et des docteurs qui sont ici présents, si vous avez un point de vue différent de celui-ci, cela a été mon cas, mais je le prends simplement de l'inspiration qui a complètement changé ma vision. Et je découvre, tandis que vous voyez ces choses révélées, cela me ramène en arrière et met ensemble les âges de l'Église et les Écritures et relie le tout. Et c'est la raison pour laquelle je crois que cela vient de Dieu. Nous réalisons, et je pense que parfois nous dépendons de ce qu'un grand docteur peut avoir dit. Et c'est très bien, je ne condamne pas le docteur en aucune manière. Je ne condamne personne. Je condamne seulement le péché, l'incrédulité. Et personne. Certaines personnes disent, vous condamnez les organisations. Non. Ce que je condamne, c'est le système de l'organisation. Pas les gens qui s'y trouvent, ou le groupe de gens qui forment l'organisation, mais le système par lequel ils sont gouvernés. C'est ça que je condamne. Les catholiques et les protestants, la même chose. Voilà. Plusieurs de mes meilleurs amis que je connaisse sont catholiques. Réalisez-vous, cet homme est peut-être assis ici ce soir, peut-être la seule manière où nous avons pu construire ce tabernacle, c'est parce qu'un catholique romain a pris mon parti au tribunal, défendant ma cause mieux que personne. Exactement. Et ils n'ont pas pu s'opposer à cette construction, c'est vrai. Ils nous avaient dit qu'il y aurait trop de monde et d'autres choses ainsi. Oh, vous ne pouvez pas mettre 80 personnes de plus dans cette église. Cet homme a dit, cette église est là, je connais le pasteur, cette église a été construite là, pourquoi les autres pourraient-ils agrandir et pas eux? Vous voyez, c'était un catholique romain, un de mes amis. Oui, monsieur. Un catholique, un véritable ami, me parlait avant que je parte. Il avait une quincaillerie. Il me disait, Billy, je sais que tu ne crois pas à notre système de religion, mais je vais te le dire maintenant même. Dieu a vraiment exaucé tes prières en notre faveur. Je crois que si tu avais des difficultés quelque part dans la nation, chaque catholique de ce pays viendrait vers toi. Oui. Et il ne disait pas chaque catholique, mais chaque croisé ou porte-croix, comme ils les appelaient. Et je répète comme il me l'a dit. Ils revendiquent ce nom parce que les premiers chrétiens portaient les croix sur le dos. Nous savons cela par l'histoire. Ils prétendent être les premiers chrétiens, ce qu'ils sont. Mais le système les a fait sortir de ce chemin, vous voyez. Et ces gens-là sont catholiques ou juifs ou quoi qu'ils soient. Ce sont des êtres humains issus du même arbre que nous. C'est juste. Ce sont des gens qui aiment, qui mangent, boivent, dorment, comme n'importe qui d'autre. Ainsi, nous ne devons jamais condamner des individus, pas un seul, voyez-vous. Nous ne devons pas condamner les individus, mais en tant que ministre, je dois frapper ce serpent qui mord ces gens, voyez-vous. Quant à moi, je ne le ferais pas si ce n'était Dieu qui m'en avait donné la commission. J'ai le devoir de le faire, voyez-vous. Je dois rester véridique et fidèle. Si un catholique, un juif ou n'importe qui venait ici, pour que je prie pour lui, que ce soit un mahométan, un grec, un orthodoxe, qui que ce soit, s'il venait ici pour qu'on prie pour lui, je prierais pour lui aussi sincèrement que pour les miens. C'est vrai, certainement, parce que c'est un être humain. Vous savez, j'ai prié pour des bouddhistes, des sikhs, des jains, mahométans, toutes sortes de gens comme cela, et je ne leur pose aucune question. Je ne fais que prier pour eux, parce que ce sont des êtres humains qui désirent être en bonne santé, et j'essaie de leur rendre la vie un peu plus facile. Maintenant, nous réalisons, et beaucoup ici, il y a deux ou trois authentiques érudits qui sont assis ici et qui connaissent la doctrine d'autres hommes sur ce sujet. Je désire que ces frères sachent que je ne condamne pas ces hommes. J'exprime seulement ce que le Seigneur me montre. C'est tout. Nous ne devons jamais penser qu'une simple blanchisseuse ou un simple laboureur ne puisse pas recevoir de révélation de Dieu. Parce que, vous voyez, Dieu, en réalité, se révèle dans la simplicité. C'est avec ça que nous avons commencé dimanche, comment il se révèle dans la simplicité. C'est ce qui fait de lui qu'il soit grand. Laissez-moi revoir ça un instant. Ce qui rend Dieu grand, c'est qu'il peut se rendre si simple. C'est ce qui fait qu'il est grand. Dieu est grand et il peut se mettre lui-même dans une forme si simple que les sages de ce monde ne peuvent le trouver. Ils ne peuvent tout simplement pas le trouver parce qu'il se fait trop simple. Regardez, ceci en soi est le mystère de la révélation de Jésus-Christ. Ceci en soi, il ne peut rien y avoir de plus grand que Dieu. Et vous ne pouvez rien faire d'aussi simple qu'il se fait lui-même. Voyez? Voilà ce qui fait qu'il est grand. Un grand homme peut devenir encore un petit peu plus grand et peut-être s'abaisser jusqu'à vous et vous dire « Comment allez-vous ?» et quelque chose comme cela, mais il ne peut se faire petit. Il y a quelque chose en lui, il est humain. Il ne lui est pas possible de se faire petit parce que lorsqu'il devient trop petit, la première chose qu'il fera alors, vous savez, c'est de se référer à ce que quelqu'un d'autre a fait et ainsi il recommencera à se mettre en avant. Mais la voie vers le haut, c'est vers le bas. En Dieu. Les sages de ce monde essayent par leur sagesse de le trouver. Ils ne font que s'éloigner de lui en faisant ainsi. Les sages du monde, si vous essayez d'expliquer quelque chose par les mathématiques ou quelque chose, souvenez-vous, il l'a même dit dans la Bible, Ésaïe 35, je crois, c'est tellement simple que même un délinquant le comprendrait. Mais,
or even a fool
ou même
un
fou, un insensé ne s'y égarera pas. Avec leur sagesse, les sages manquent cela de beaucoup et s'éloignent de plus en plus de lui en essayant de le trouver par la sagesse. Maintenant, n'oubliez pas cela. C'est enregistré, oui. Les sages, dans leur sagesse, vont si loin pour essayer de le trouver par leur sagesse qu'ils le manquent. S'ils pouvaient être assez grands pour être assez simples, ils pourraient le trouver. Si vous êtes assez grand pour devenir assez simple,
vous
voyez, c'est vraiment la vérité. Je suis allé voir des gens à leur bureau, etc., qui étaient vraiment des personnalités, de grands rois, des potentats, des monarques. Et habituellement, ce sont des grands hommes. Je suis allé à un endroit où un homme changeait de vêtements à chaque occasion. C'était peut-être un ministre qui voulait discuter avec moi. Il semble que le monde ne pourrait pas tourner sans eux. Vous voyez. Et cela leur est monté à la tête. Vous voyez. Mais un grand homme s'assied et essaie de vous faire croire que c'est vous qui êtes le grand homme. Vous voyez. Il peut s'humilier. Et voyez-vous, Dieu est si grand qu'il peut s'humilier à un point tel qu'aucun être humain ne puisse descendre aussi bas. Oui, c'est tout. Mais ils essayent de le trouver en envoyant les jeunes à l'école pour obtenir des titres universitaires. Ils essaient de le trouver par la terminologie théologique de la Bible. Et ils essayent de le trouver par des programmes éducatifs, des programmes d'organisation, et en embellissant les choses. Mais il n'est pas là du tout. Vous vous battez simplement contre le vent. Voilà tout. Vous vous en éloignez. S'il pouvait être assez grand, pour être assez simple, il pourrait le trouver dans cette direction, en étant simple. Mais tant que vous allez vers la sagesse, vous vous en éloignez. Maintenant, laissez-moi vous présenter ceci afin que vous ne manquiez pas aussi longtemps. Vous essayez de trouver Dieu par la sagesse, comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden, comme ce fut le cas du temps de Moïse, comme ce fut le cas du temps de Noé, comme ce fut le cas du temps de Christ, de Jean, du temps des apôtres, et jusqu'à ce jour. Quand vous essayez de vous représenter Dieu et de le trouver par la sagesse, vous vous éloignez de plus en plus de lui. Vous essayez de comprendre ces choses. Il n'y a aucun moyen de le faire. Acceptez-le simplement. Voyez. Croyez-le simplement. N'essayez pas de comprendre. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas beaucoup de choses que je comprenne. Je ne comprends pas pourquoi ces jeunes assis ici mangent la même nourriture que moi et ont une chevelure abondante alors que moi je n'en ai pas. Je ne comprends pas ça. On m'a dit que le calcium les fait pousser et je dois sans cesse me couper les ongles, mais je n'ai pas du tout de cheveux à couper. Je ne comprends pas cela. Comme on le disait autrefois, ça pourrait changer un peu notre position dans les choses sérieuses, mais c'est une chose sérieuse, bien que je n'en sois pas encore arrivé au saut. Comment se fait-il qu'une vache noire qui mange de l'herbe verte donne du lait blanc qui devient du beurre jaune? Je ne pourrais vraiment pas expliquer ça, voyez-vous. Parce que chacun est un produit de l'autre. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi de deux lys ou de deux fleurs de la même race, l'une est rouge et l'autre jaune, l'une brune et l'autre bleue, je ne le comprends pas. C'est le même soleil qui les éclaire. D'où vient leur couleur, voyez? Je ne puis pas l'expliquer, mais il faut l'accepter. J'aimerais qu'un grand théologien puisse m'expliquer comment ce monde reste sur son orbite. J'aimerais que scientifiquement vous puissiez lancer une balle en l'air, la faire tourner et lui faire subir une seconde révolution à la même place. Vous ne pourriez pas le faire. Et pourtant, tout ceci est parfaitement synchronisé qu'on peut déterminer à la minute près l'éclipse du soleil qui aura lieu dans 20 ans. On n'a pas de montre, de pendule ou d'autres machines aussi parfaites que cela. Et ça demeure stable. Et puis, il y a l'axe de la Terre qui est incliné. Que se passerait-il s'il se redressait un petit peu? Vous vous rendriez simplement ridicule en essayant d'expliquer cela. Voyez-vous, n'essayez pas d'acquérir la sagesse pour comprendre. Croyez simplement ce qu'il a dit. Plus vous pourrez devenir simple, et alors vous allez le trouver. Je suis si reconnaissant pour cela. Reconnaissant qu'il se soit fait simple. Maintenant, nous lisons au sixième chapitre, neuvième verset. Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Remarquez. Il n'est plus fait mention d'une autre bête ou d'un être vivant dans cette annonce du cinquième sceau. Souvenez-vous qu'il y en eut un pour le premier sceau, pour le deuxième sceau, le troisième, le quatrième, mais pas ici. Voyez? Revenons un peu en arrière sur ces sceaux. Le quatrième sceau, le septième verset. Et lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal disant, « Viens et vois. » Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis la voix, le troisième animal qui disait, « Viens et vois. » Le second animal, « Viens et vois. » Et le premier animal qui dit, « Viens et vois. » Mais lorsque nous arrivons au cinquième sceau, il n'y a plus d'être vivant. Remarquez. Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel, directement. Il n'y a pas d'animal, d'être vivant. Une bête représente une puissance. Il n'y a pas d'être créature vivante. L'une de ces créatures, en étudiant la révélation dans les églises, nous avons découvert que l'une d'elles était un lion et l'autre était un bœuf, et l'autre était un homme, et l'autre était un aigle. Nous avons découvert dans les âges de l'Église que ces quatre êtres vivants, représentant quatre puissances, étaient rassemblés autour des actes des apôtres de la même manière que les tabernacles dans le désert. Vous comprenez, c'est pourquoi je ne prendrai pas le temps d'entrer dans cela maintenant. Nous avons déjà exposé ces choses exactement. Ces animaux veillaient à ce que l'agneau et la parole accomplissent la parole exactement comme dans le désert, ils le firent auprès de l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le lieu saint, etc. Nous avons même montré leur position par les couleurs tribales d'Israël. Combien ont entendu les sept âges de l'Église? Je pense que la plupart d'entre vous, les deux tiers, remarquez que même la nature des êtres vivants était exactement un emblème tribal pour les douze tribus groupées en quatre groupes de trois sur chaque côté du tabernacle. Et les quatre êtres vivants se tenaient là et veillaient sur cette tribu dans les quatre directions. Nous avons pris les évangiles et montré exactement que si vous vouliez entrer dans l'arche, les quatre êtres vivants gardaient l'arche de l'Alliance. Et puis nous avons découvert que l'Alliance de la Nouvelle Église était représentée sur terre par le Saint-Esprit. Le sang nous avait renvoyé le Saint-Esprit. Et les quatre êtres vivants représentaient les douze tribus d'Israël. Ils veillaient. Et nous avons découvert leur nature et nous avons rapporté cette nature à chacun des quatre évangiles exactement le même. L'un parlait au lion, l'autre au bœuf, les quatre évangiles. Voilà, les quatre évangiles sont la protection du Saint-Esprit. Amen. Je me suis toujours demandé, et cela m'a frappé, il y a environ 6 ans, je crois, depuis que j'ai entendu un grand homme dire que les actes des apôtres étaient juste la charpente. J'ai souvent entendu dire cela. Mais entendre un homme qui, de son état étant prédicateur et docteur, a écrit quelques-uns des livres les plus connus que les gens lisent, et dire que les actes des apôtres ne sont même pas propres à l'enseignement de l'Église, alors que les actes des apôtres sont le fondement même. Ce n'est pas la charpente, mais le fondement. Parce que la Bible dit que le fondement de Dieu est établi sur la doctrine des apôtres. C'est vrai. Christ est la pierre angulaire. Et lorsque cet homme vint là et a fait cette remarque, juste mon cœur a défailli. Je pensais, c'est pas étonnant. Et je vois maintenant dans les sceaux, cela m'a été révélé, voilà tout. Ils étaient là, ils se tenaient là. Il y a quelque chose qui dit simplement cela. Maintenant, remarquez qu'ils montaient la garde. Lorsque nous en sommes arrivés à Matthieu 28, 19, et que nous avons relevé cela tout au long de Matthieu, qui représente le lion, nous sommes arrivés là, nous avons trouvé exactement pourquoi il baptisait au nom de Jésus-Christ. Et il était là, cet homme-là, avec cette écriture même, pour garder le dépôt sacré du baptême au nom de Jésus-Christ. Eh bien, voilà que je reviens dans les âges de l'Église maintenant. Remarquez. Mais ici, lorsque nous arrivons à ce cinquième sceau, il n'y a aucun cavalier qui s'avance et il n'y a pas d'être vivant pour l'annoncer, d'animal. L'agneau a ouvert le sceau et Jean l'a vu. Il n'y avait personne là pour dire, viens et vois. Remarquez qu'il n'y a là aucune puissance de créature vivante. Et dans le sixième sceau, il n'y a pas de bête pour l'annoncer. Mais pour le septième sceau, il n'y a pas de bête, pas de puissance pour l'annoncer. Personne ne le fait. Regardez. Après le quatrième sceau, il n'y a plus d'annonce par aucune bête puissance pour le cinquième, sixième ou septième sceau. Pas du tout. Maintenant, remarquez, j'aime ceci. Au temps du cavalier des quatre chevaux, le cavalier au singulier des quatre chevaux différents, il y avait un animal qui annonçait la puissance. Chaque fois que le cavalier enfourchait un autre cheval et s'avançait pour chevaucher, une autre sorte d'être vivant sortait l'annoncer. C'est un grand mystère. C'est le mystère. Pourquoi? Il annonce le mystère. Pourquoi n'y a-t-il pas un ici pour annoncer le cinquième sceau? Voici pourquoi, selon la révélation que le Seigneur Jésus m'a donnée aujourd'hui, tôt ce matin, c'est que le mystère des âges de l'Église est déjà terminé à ce moment-là. En ce temps-là, le mystère de l'Antichrist est révélé. L'Antichrist a accompli sa dernière chevauchée et nous le découvrons sur le cheval pâle aux nombreuses couleurs mélangées et qui poursuit son chemin jusqu'à la perdition. Nous verrons cela en étudiant les trompettes. J'aimerais bien vous le montrer maintenant, mais nous sortirions notre sujet.
Oui.
C'est la raison pour laquelle il n'y a personne là, vous savez. Il n'y a rien qui ne soit écrit sans raison. Vous vous rappelez quand j'ai dit au début, il ne peut rien y avoir sans raison. Vous vous rappelez la petite goutte d'encre? Il faut maintenant trouver la raison. Il y a une raison pour laquelle il n'y avait pas besoin d'une bête ou d'une puissance pour annoncer l'ouverture de ce sceau. Et seul Dieu peut révéler pourquoi. Voilà tout. Parce que tout repose en lui. Mais la raison pour laquelle il a révélé, comme je comprends, c'est à cause du mystère du livre de la rédemption dans la mesure où l'Antichrist est révélé. Et à ce moment-là, l'Église est partie. Et ces choses ne se passent même pas du tout dans les âges de l'Église. C'est juste. Elle se passe en dehors des âges de l'Église. À ce moment-là, l'Église est enlevée, absolument. L'Église monte au quatrième chapitre de l'Apocalypse et ne retourne pas avant qu'elle revienne avec son roi au chapitre 19. Mais ces sceaux ici révèlent ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Vous voyez? Ainsi, ce qui devait être pour les âges de l'Église a été révélé par ces sceaux, et maintenant observez ce que cela signifie. Les quatre étapes de son cavalier ont été révélées. Les quatre étapes de l'Antichrist chevauchant ont été révélées en ce temps-là. C'est pourquoi il n'y en a plus besoin. Et les quatre créatures vivantes de Dieu étaient là pour annoncer le cavalier tandis qu'il chevauchait. Quatre bêtes ou quatre puissances. Nous savons maintenant que des bêtes, par l'interprétation des termes de la Bible, les symboles, ça signifie une puissance. Voyons cela plus près. Les quatre bêtes dans la Bible représentent une puissance parmi les gens. Maintenant, si nous voyons, comme dans Daniel, lorsqu'il vit s'élever une certaine nation, c'était un ours se tenant sur le côté, qui avait trois côtes dans la gueule, c'était un symbole, et puis il vit s'élever une autre puissance, un bouc qui représentait quelque chose, puis il vit une autre puissance, et c'était un léopard avec plusieurs têtes, il représentait un certain royaume, puis il vit se dresser une autre bête, un grand lion avec des dents, qui piétinait le reste. Il représentait une puissance entièrement différente. L'un était le royaume de Nébuchadnezzar. Il s'agit d'une autre espèce de songe. Daniel eut une vision. Nébuchadnezzar fit un songe et Daniel l'interpréta et c'était correctement avec la vision. Amen. Oh, si vous saviez simplement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avant que nous partions d'ici. Vous comprenez? Eh bien, six songes clairs correspondaient exactement avec la vision. Un songe interprété est une vision. Parce qu'une personne n'est peut-être pas née avec le subconscient qui lui permette d'avoir une vision tout en étant éveillé. Alors Dieu plonge dans son subconscient et lui parle. Alors il a promis que dans les derniers jours, il visiterait son peuple par des songes et aussi par des visions. Maintenant, la vision se produit lorsque vous êtes éveillé, comme je le suis maintenant, et que certaines choses sont révélées. Vous êtes là et dites exactement ce que c'est. Vous voyez ce qui s'est passé, ce qui va arriver ainsi de suite. Par contre, un songe, c'est lorsque vous dormez, que vos cinq sens sont inactifs et que vous êtes dans votre subconscient. Vous êtes quelque part parce que quand vous revenez, vous vous rappelez où vous avez été. Vous en souvenez toute votre vie. Ainsi, c'est votre subconscient. Comme le sénateur Upshaw disait, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est juste, voyez-vous. Si vous êtes né un voyant, c'est que pour pouvoir faire cela, il faut que les deux consciences soient tout à fait ensemble, non pas l'une ici avec les cinq sens en activité, et l'autre là-bas qui n'apparaît que lorsque vous dormez et que vos cinq sens sont inactifs. Mais voyez, si vous êtes né voyant et que les deux sont tout à fait ensemble, vous n'allez pas dormir, vous passez simplement de l'un à l'autre, vous n'allez pas dormir. Il n'y a pas assez de temps pour dormir, pas assez de place. Et vous ne pouvez pas vous forcer ainsi. Ainsi, les dons et les appels sont prédestinés par Dieu. Ce sont les dons et les appels de Dieu, et la Bible dit même qu'ils ne s'en repentent pas, voyez-vous. Ils ont été ordonnés avant la fondation du monde. Maintenant, nous voyons que la bête de Daniel signifie qu'une puissance était en train de se lever parmi les gens. De même ici, la vision de Jean montre aussi que c'était une puissance des nations qui s'élevait. Et les États-Unis apparaissent dans Apocalypse 13 comme un agneau. Alors si vous croyez mieux savoir, vous pourrez dire que ce passage parle d'une puissance nationale. La bête représente aussi une puissance sainte. Saviez-vous cela? Remarquez, Rebecca, lorsque le serviteur d'Abraham, Eliezer, quand il est venu chercher Rebecca, il a fait monter sur un chameau, le chameau même qu'elle avait abreuvé, et elle a chevauché ce chameau pour rencontrer son époux qu'elle n'avait jamais vu. La chose même qu'elle a abreuvée est ce qui l'a conduit à sa demeure future et à son mari. Et c'est la même chose aujourd'hui, voyez-vous. La chose même que l'Église est en train d'abreuver, c'est la semence de la parole. C'est la parole même qui devient vivante et nous transporte jusqu'à notre époux que nous n'avons pas vu. Et regardez comme c'est parfait. Isaac avait quitté la maison et était sorti dans les champs, loin de sa maison, lorsque Rebecca l'a vu, et l'Église rencontre Christ dans les airs, et il la ramène dans la maison du Père, où les demeures sont préparées. Isaac prit Rebecca de la même manière, et remarquez qu'ils s'aimèrent au premier regard. Oh là là, Elle courut à sa rencontre. C'est de cette manière que l'Église rencontrera Christ dans les airs pour être toujours avec lui. Maintenant, revenons à la Bible. Ces bêtes sont des puissances. Remarquez. J'aimerais maintenant que vous remarquiez que le diable avait ces quatre bêtes de couleur changeante pour avancer. Il avait ces quatre bêtes, trois dans la couleur d'un, et ce un, celui-là, faisait un cheval pâle, un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir, et nous voyons que chacun de ces chevaux était une étape de son ministère. Une étape de l'Église primitive qui s'était formée en une dénomination à Nicée, l'Église originelle de Pentecôte, sur laquelle le Saint-Esprit était descendu, prit un esprit antichrist, a formé une organisation, a donné naissance à des filles d'organisation, a changé son pouvoir trois fois, et le mit en un pour faire ainsi un cheval pâle auquel il fut donné le nom de mort et qu'elle chevaucha jusque dans l'éternité. C'est aussi clair que possible. Remarquez qu'il lui est donné ce cheval et qu'il le chevauche. Dieu a également, chaque fois, regardez, lorsque l'Antichrist fit sa première apparition, sous quelle forme? Un cheval blanc. Et aussi innocent que possible, simplement une doctrine dans l'Église. Il voulait avoir la communion fraternelle. Votre communion est avec Christ. Mais il voulait avoir la communion. Vous ne pouvez pas le supporter, voyez. Vous savez que les petits clans s'élèveront dans l'Église. Vous savez, vous, les pasteurs, comme ils disent, les oiseaux du même plumage se rassemblent. Mais nous sommes nés nouveaux, les frères. Ce n'est pas l'attitude à prendre, non. Si nous voyons quelque chose de faux dans nos frères, prions simplement et gardons cela devant Dieu et aimons cet homme jusqu'à ce que nous l'amenions dans la présence de Dieu. Voilà vraiment la façon de faire. Vous savez, Jésus a dit, il y aura de la mauvaise herbe. Jésus a dit, mais ne l'arrachez pas, parce que vous pourriez arracher le blé avec elle. Voyez-vous, laissez-les tranquilles. Laissez-le faire la séparation quand le temps sera venu. Laissez tout croître ensemble. Comme la bête est sortie, l'Antéchrist sortit sur une bête qui était son pouvoir. Oh, j'aime ceci. Je commence à me sentir religieux maintenant même. La stimulation. L'Antichrist, ces révélations en présence de cette boule de feu suspendue dans la salle, oh frère. Bien que je la vois depuis mon enfance, chaque fois qu'elle s'approche de moi, elle m'alerte. Elle me met presque dans un état d'inconscience. On ne s'habitue jamais à cela. C'est impossible. C'est trop sacré. Remarquez, alors que l'Antichrist s'avançait sur sa bête de son ministère, Dieu envoyait une bête pour la combattre. Vous voyez? Maintenant, regardez, chaque fois que la bête montait son cheval, l'Antichrist, pour annoncer son ministère, Dieu, lui aussi, envoie sa bête avec son propre masque pour annoncer son combat contre lui. Les Écritures disent, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Ainsi, lorsque l'ennemi est sorti comme Antichrist, Dieu a envoyé un certain type de puissance pour le rencontrer. Puis lorsqu'il sortit de nouveau, sous la forme du cavalier au cheval roux, une autre couleur, une autre puissance, un autre ministère, Dieu envoya une autre puissance contre lui pour le combattre afin de maintenir son Église. Lorsqu'elle fut envoyée le troisième cavalier, Dieu envoya de nouveau une bête, sa troisième pour l'annoncer. Il envoya le quatrième, et Dieu envoya son quatrième. Alors, en ce temps-là, l'Antéchrist arriva à sa fin, ainsi que les âges de l'Église. Regardez. Oh, ceci est vraiment bien. Maintenant, nous voyons que le diable changeait quatre fois de bête. Cela montre quel pouvoir il révélait au monde et comment celui-ci prendrait fin dans ce cheval pâle. Regardons maintenant les puissances de Dieu, de ces bêtes, pour les combattre. La première bête de Dieu qu'il envoya à la rencontre de l'Antichrist, l'Esprit Antéchrist, c'était alors, rien de plus que son enseignement. Souvenez-vous que lorsque l'Antichrist fit sa première chevauchée, c'était un ministère d'enseignement. L'Antichrist chevaucha premièrement dans un ministère d'enseignement. Observez celui qui va à sa rencontre, le lion de la tribu de Judas, qui est la parole. Lorsque son faux enseignement est apparu, la parole véritable est venue à sa rencontre. C'est la raison pour laquelle nous avons eu Irénée et Polycarpe, et ceux-là, et Saint-Martin. Lorsque l'Antichrist chevauchait avec ses faux enseignements, Dieu envoya son enseignement, la parole, le lion de la tribu de Judas, qui est la parole manifestée dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour le manifester, lui qui est la parole. La raison pour laquelle l'Église primitive avait des guérisons et des miracles, des visions et de la puissance, c'est parce que la parole vivante sous la forme du lion de la tribu de Judas chevauchait pour combattre. Amen. Maintenant, vous avez saisi? L'Antichrist envoie sa puissance. Dieu envoie la sienne, la parole. L'Antichrist propage la fausse doctrine. Et la vraie doctrine sort pour la combattre. C'était donc le premier combat. Maintenant, c'était la première église apostolique qui est allée à sa rencontre. Maintenant, la deuxième bête que l'Antichrist envoya était une bête rouge qu'il chevauchait pour ôter la paix de la terre et faire la guerre. Et la deuxième qui est sortie pour le combattre, c'était le bœuf. Le bœuf signifie labeur, une bête qui porte des fardeaux. Si nous pouvions simplement nous arrêter, laissez-moi m'assurer que vous comprenez bien. Ça risque d'être un peu embarrassant pour vous. Revenons un petit peu à Thyatire et voyons si ce n'est pas une église qui est au travail. Et à l'ange de l'église de Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres. Voyez, tout devient œuvre maintenant parce que c'est celui qui chevauche avec eux. Et ta charité et ton service et ta foi et ta patience et tes œuvres à nouveau. Deuxième fois. Tes œuvres. Et les dernières dépassent les premières, voyez-vous. Cela montre que pendant l'âge de Thyatire, après que l'Antichrist se fut établi et eut pénétré dans l'âge de Thyatire, la petite église ne pouvait rien faire que simplement travailler. Et autre chose, le bœuf est aussi une bête de sacrifice. Voyez? Ils donnaient leur vie aussi librement qu'ils le pouvaient. Au Moyen-Âge, pendant un millier d'années, le catholicisme contrôlait le monde. Et avec eux, c'était oui ou non. Ça ne leur faisait rien de mourir. Si c'était la mort, c'était très bien. Ils allaient et mouraient de toute manière. Pourquoi? C'était l'esprit même de l'âge. C'est la raison pour laquelle Irénée, Polycarpe, Jean, Paul, tous ces grands et puissants hommes sont sortis pour combattre cette chose. Paul l'avait vu. Il dit, « Je sais qu'après mon départ, des loups entreront au milieu de vous, des frères enseignant des choses perverses pour vous détourner. » Regardez cet apôtre sévère se tenant là, le dos marqué par le fouet, les yeux pleins de larmes, mais il pouvait voir plus loin que ce puissant télescope qui, dit-on, peut voir à des centaines de millions d'années-lumière dans l'espace. Il pouvait voir jusque dans l'éternité. Il était là. Et il prédit ces choses, disant ce qui arriverait exactement dans les autres âges à venir. Maintenant, remarquez, il était là. L'apôtre Jean fut celui qui vécut le plus longtemps. Alors que Jean essayait de rassembler toutes les épîtres sacrées écrites sous l'onction du Saint-Esprit pour les mettre ensemble et en faire la Bible. L'Empire romain s'est emparé de lui et l'a exilé à l'île de Patmos. Il était là sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Polycarpe l'aida à la traduire. L'autre jour, j'ai lu la lettre que Marie elle-même écrivit à Polycarpe. Elle ne lui faisait pas de reproches, mais au contraire, le louait d'être un homme vaillant qui pouvait enseigner et accepter l'enseignement de Jésus-Christ, celui qui était né d'elle et venait de Dieu. C'était la propre note de Marie qu'elle avait écrite à Polycarpe. Vous savez que Polycarpe fut donné en pâture au lion. Non, il fut brûlé, il était trop tard pour qu'il puisse lâcher un lion dans l'arène. Alors ils démontèrent une vieille maison et ils l'amenèrent dans l'arène dont le bois servit à le brûler. Et sur le chemin qui descendait là, il marchait la tête baissée. Et le centenier romain a dit, « Tu es un vieillard respecté, pourquoi ne renies-tu pas cette chose ?» Il se contenta de regarder les cieux, et une voix se fit entendre de quelque part. Il ne pouvait savoir d'où. Il dit, « Polycarpe, ne crains point, je suis avec toi. » Parce qu'il s'est tenu avec la parole. Et lorsqu'ils commencèrent à empiler les planches sur lui pour le brûler, une musique céleste est descendue. Et dit quelque part, des chants d'anges. Il n'est même pas un battement de paupières, c'était un homme vaillant. C'était un homme qui pouvait tenir debout. Au cours des âges, les martyrs souffrirent terriblement. Qu'était-il? Ils étaient sous l'inspiration, l'Esprit de Dieu, la puissance. N'oubliez pas ceci, Église. Et vous, les frères qui écoutez les bandes, j'aimerais que vous examiniez ceci. Comment les hommes pourraient-ils faire quoi que ce soit sans la puissance de Dieu qui a été libérée pour eux? Je vais placer cette boîte ici pour représenter cela. Si Dieu envoie un certain esprit au milieu d'eux, la seule chose par laquelle ils peuvent agir est par l'esprit qui agit au milieu d'eux. Maintenant, nous allons vous le prouver par l'histoire de l'Église et par l'ouverture des sceaux et par toutes ces puissances déchaînées et observer exactement comment l'Église répondait à l'onction et comment elle ne pouvait pas agir autrement. Le premier fut ce lion rugissant, la parole pure, non frelatée. Le deuxième, Thyatire, c'était le bœuf. Et c'était une bête portant des fardeaux. Et c'était aussi une bête de sacrifice. Et n'était-ce pas exactement la pauvre petite église de Rome qui s'établit là-bas pendant les 1000 ans des âges sombres et tout ce qui ne professait pas appartenir à l'église romaine était immédiatement mis à mort et ils devaient peiner, travailler, aller de lieu en lieu. Vous, les francs-maçons, j'aimerais attirer votre attention. Vous vous souvenez du signe de la croix? Maintenant, vous savez ce dont je parle. Remarquez. Si vous remarquez, cela gardait la Bible et la conservait. Oui. Et ils devaient travailler, peiner les uns les autres. Voilà, le bœuf. Et quand le temps fut venu, on l'a vu hier soir, quand la bête s'est avancée et que le sacrifice vint et qu'ils durent s'en aller, il dit, ne nuis pas à l'huile et au vin. Que firent-ils alors? Ils marchèrent volontairement à la mort. Ils ne se souciaient pas, parce que l'esprit de l'Église à ce temps-là était le sacrifice, le labeur, et ils montaient aussi librement que possible, loin par le véritable esprit de Dieu de cet âge, et ils mouraient comme des héros du sacrifice, des milliers de milliers, 68 millions qui sont enregistrés, le bœuf, le sacrifice. Voilà, là, comprenez-vous cela? Ok, très bien. Maintenant, le sacrifice. Il ne pouvait travailler que dans cet âge pour combattre cette grande opposition de 1000 ans. Maintenant, la troisième bête qui s'est avancée, venant du diable, fut ce cheval noir. La troisième bête qui est sortie, une puissance venant de Dieu pour le combattre, les pouvoirs du cheval noir, c'était un homme habile, intelligent, avec la sagesse de Dieu. Vous savez, un homme est plus intelligent que n'importe quelle bête. Plus intelligent parce que Il peut la déjouer la plupart du temps. Il est habile, rusé. Il entre dans cet âge sombre maintenant, chevauchant son cheval noir, âge dans lequel on faisait payer pour les sacrifices et tout le reste, et l'argent était simplement, vous savez comment c'était. Ainsi, la chose suivante qui est venue pour combattre, c'était une bête avec la face d'un homme, intelligent, instruit, perspicace, bien, loin de l'esprit de ce jour-là. Vous remarquez? Maintenant, il est allé le combattre avec l'adresse de la sagesse de Dieu en lui. C'était l'âge de la réforme. Martin Luther, John Wesley, etc. Vous voyez? C'était la réforme. Zwingli, Knox, Calvin et tous les autres sont sortis. Ils avaient cette adresse. Et regardez exactement, depuis les âges sombres, depuis la réforme, observez cette manière de faire, c'était la perspicacité de l'homme. Comprenez-vous cette troisième bête que Satan envoya? C'était la perspicacité de l'homme. Comprenez-vous maintenant que cette troisième bête que Satan envoya devint elle aussi perspicace. Une mesure de froment pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Voyez? Oh là là, voyez-vous? Les moyens utilisés pour gagner de l'argent, l'habileté à s'emparer de l'or du monde, de la richesse et de la puissance qui l'accompagne, ça s'est accompli exactement. Ils commencèrent à faire payer les prières et inventèrent un lieu appelé purgatoire. Et ils en faisaient sortir leurs aïeux à coups de prières. Et il fallait léguer les biens, les propriétés, tout. L'Église et l'État étaient une même chose. Et l'Église s'emparait de vos biens. Et ne voyez-vous pas que certains de ces évangélistes ont encore cette même onction sur eux? Ils amènent les personnes âgées à céder leurs pensions, à léguer leurs maisons et à faire d'autres choses. Eh bien, oh, je ne veux pas entrer dans ce sujet. Je vais rester avec ceci. Je reviens en arrière pour voir où je vais. Remarquez, ces hommes, ça les regarde, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis simplement responsable de ceci. Maintenant, remarquez que l'être, la bête vient combattre maintenant, c'était un homme. Et nous savons tous que cette bête, cet homme, cette puissance de l'homme, dans son intellect, reconnu que ce cocher, cette hostie que Martin Luther tenait dans sa main lorsqu'il gravissait marche, on disait, ceci est le sang de Jésus-Christ. Ceci est le corps de Jésus-Christ. Et Luther a jeté ça à terre en disant, c'est du pain et du vin. Ce n'est pas le corps de Christ parce que celui-ci a été élevé et il est assis à la droite de Dieu faisant intercession. Voyez, la sagesse, l'homme. Et quand John Wesley est venu après Zwingli et Calvin, il installa l'Église dans un état de sécurité tel qu'elle ne voulut plus de réveil. De toute façon, tout ce qui doit arriver arrivera. Et c'était tout, et ils vécurent n'importe comment. Les églises luthériennes étaient tellement tordues et anglicanes. Oh là là, et tout le pays s'est corrompu jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Les églises ont tordu lorsque le roi Henri VIII prit le pouvoir en Angleterre après Marie la Sanguinaire et que toutes ces choses arrivèrent là et que l'église fut remplie de violence et de corruption. Les hommes se prétendaient chrétiens mais vivaient avec quatre ou cinq femmes agissant sous leur bon plaisir et se vautrant dans la souillure. John Wesley, en étudiant les Écritures, il lui fut révélé que le sang de Jésus-Christ sanctifie le croyant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec une autre réforme. Il a sauvé le monde de son jour, comme Luther l'a fait. Qu'est-ce que c'était? C'était cette puissance de l'être vivant, de cet homme qui s'est avancé. Il donna à l'homme la sagesse pour comprendre que la chose était fausse. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le corps de Jésus-Christ. Cela représente le corps. Voyez? C'est encore maintenant le grand sujet de dispute entre les catholiques et les protestants. C'est la seule chose sur laquelle ils ne peuvent s'accorder maintenant. Il y a des conciles à ce sujet. Ils peuvent s'entendre sur tout, mais pas sur cela. Voyez?
But they couldn't get together on that. See?
Le vin, c'est le sang. Ils disent que c'est littéralement du sang. Ils disent que le prêtre a le pouvoir de changer ce pain et d'en faire littéralement le corps de Christ. Voilà la raison du petit tabernacle dans les églises. Vous savez, c'est la raison pour laquelle ils font des signes et toutes sortes d'offrandes païennes, se prosterner et toucher leur chapeau, etc. Ce n'est pas pour l'édifice, c'est pour cette hostie qui se trouve là dans le tabernacle. Remarquez avec quelle ruse Satan a introduit cela. Mais voyez-vous, en ce temps-là, en même temps que Dieu met alors un esprit de sagesse sur un homme, un esprit, un être humain pour comprendre que c'est faux, c'était pour combattre la troisième bête qui avait tellement corrompu l'Église. C'était terrible. Les réformateurs, que firent-ils pendant l'âge des réformateurs? Ils ramenèrent à Dieu l'Église qui s'était adonnée aux cérémonies païennes et à l'idolâtrie. C'est pour faire cela que l'être vivant sortit contre le cavalier avec la sagesse de l'homme. Maintenant, lisons Apocalypse 3, 2. Je l'ai marqué ici dans une raison. Ce passage nous introduit maintenant dans l'âge de Luther et de la Réforme. Apocalypse 3 et 2. Ce qu'ils ont fait, ils se sont organisés. Aussitôt que Luther eut donné le départ à son église, ils se sont organisés. Très bien. La même chose avec Wesley. La même chose avec les pentecôtistes. Exactement. Ils se sont organisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adopté le même système duquel ils étaient sortis. Observez ce passage de l'Apocalypse qui parle à l'église de Sardes, à l'ange de l'église. Sois vigilant et affermis ce qui reste. C'est la parole qui vous a été enseignée. Oui, ce qui reste et qui est prête à mourir. Elle est toute prête à retourner dans l'organisation qui est exactement pareille à l'Église catholique dont elle était sortie. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Vous y voilà. On revient toujours là en arrière. Ne voyez-vous pas pourquoi le système des organisations est faux? Qui l'a commencé? Est-ce que c'est Dieu? Les apôtres? L'Église catholique romaine, est-ce qui a fait cela? Aucun historien ne pourra dire le contraire. C'est pas là. Ils disent qu'ils sont l'Église mère, et ils le sont. Mais ils ont organisé la chose, et ils ont monté un système dirigé par un homme. Nous, protestants, n'avons pas établi comme eux un seul homme. Nous avons établi tout un conseil d'hommes, et nous les avons mis ensemble. Alors il y a réellement la confusion. C'est vrai. De toute façon, que peut-il sortir de bien d'un conseil d'hommes? Il en est de même lorsque nous pensons que la démocratie est juste, je le crois aussi, mais elle ne fonctionnera jamais. Avec une bande de riquis pour la faire marcher, comment arriverez-vous à lui faire ce qui est juste? Ce n'est pas possible. Remarquez, la chose réelle, c'est qu'il y ait un roi pieux. Remarquez la bête. La troisième bête maintenant, avec l'habileté d'un homme, il représente les réformateurs qui sont sortis de l'idolâtrie païenne, disant « Ce n'est que du pain, ce n'est que du vin. » Voyez-vous, l'Antichrist a toujours quelque chose pour symboliser le christianisme. Il le faut bien parce qu'il est contre, voyez-vous. Et s'il venait nous dire « Oh, je suis Bouddha », ça ne lui servirait à rien puisque c'est un personnage païen depuis le commencement. Mais l'Antichrist, il est rusé. Il a toutes sortes de choses qui représentent le christianisme. Mais il est allé au-delà et a fait quelque chose de contraire à la doctrine originelle du christianisme. C'est ça qui fait de lui l'Antichrist. Ainsi, les réformateurs, lorsque la bête s'est avancée sous la forme d'un homme pour combattre. Maintenant, n'oubliez pas cela. Classe, n'oubliez pas. Souvenez-vous. Tous les jours de votre vie, ces bêtes sont correctement présentées. C'est ainsi dit le Seigneur. Remarquez, l'idolâtrie, l'homme bête s'est avancé avec la puissance de Dieu, par la sagesse que Dieu lui avait donnée, et a ramené l'Église de l'idolâtrie de retour à Dieu. Mais nous découvrons, dans ce même âge de l'Église, que Rome, quand ils ont commencé à faire des dénominations comme au commencement, Rome, maintenant, elle va faire des filles à cette église. Et que dit-il? Je ne t'ai pas trouvé parfaite, mais affermis ce petit reste qui a été laissé. Maintenant, écoutez-le. Avertir à nouveau dans Apocalypse 3:3. Souviens-toi comment tu as reçu et entendu et tiens ferme et repens-toi. En d'autres termes, souviens-toi que tu es sorti de cette corruption. Voyez. Et, regardez ici, donc, si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur. Et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. En continuant, nous verrons qu'il va ôter le chandelier. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? La lumière de l'Église, elle est retournée tout droit dans le même système d'organisation de ténèbres païennes dont elle était sortie. Et c'est là qu'elle demeure aujourd'hui. Dire qu'il y a des gens au cœur honnête qui pensent que c'est la vérité. Les protestants ont beau se moquer des catholiques, ils sont exactement comme eux. C'est comme 6 et 1/2 douzaine, exactement en accord avec la parole. C'est la sagesse de l'homme. Maintenant, remarquez. Oh, combien j'aime ceci. Écoutez-le maintenant, mettre en garde. Êtes-vous parfaitement d'accord, chacun de vous? Si vous ne l'êtes pas, posez-moi des questions par écrit. Que ces bêtes sont exactement identifiées dans chaque âge, comme la Bible les a identifiées ici. C'est exactement ce qu'elles ont fait. L'histoire montre ce qu'elles ont fait. Nous regardons simplement ici, voyons ce qu'elles ont fait. Et je ne savais pas cela auparavant. J'étais simplement assis là et je pouvais voir la scène se dérouler aussi clairement que vous me voyez. Il faut que ce soit juste, parce que ça concorde ici avec la Bible. Ainsi, comment allez-vous faire autre chose sinon dire que c'est juste? Remarquez, la quatrième bête qui fut envoyée pour combattre l'Antichrist dans cette dernière bête. Êtes-vous prêt? La dernière bête qui a été envoyée, la dernière puissance pour combattre l'Antichrist, qui était contre les enseignements de Dieu, c'était un aigle. La quatrième bête vivante était un aigle. Maintenant, vous qui étudiez ces âges, ce sont des Écritures, c'est un aigle. Et dans la Bible, le dernier âge était l'âge de l'aigle. Et Dieu assimile ses prophètes à des aigles. Voyez-vous? Regardez. Le dernier âge, l'âge de l'aigle, un révélateur de la vraie parole. Voyez? Avant que Dieu n'entre en action, comme il le fit au jour de Noé, il envoya un aigle. Lorsqu'il fit sortir Israël et que l'armée de Pharaon était prête à se mettre en marche, il envoya un aigle. Chaque fois, il envoie un aigle à la fin de l'âge. Et le voici qui envoie de nouveau un aigle. C'est exactement avec la parole. Alors comment allez-vous pouvoir faire autre chose que cela? Il envoie un aigle. Pourquoi? C'est un révélateur de la vérité qui est tombé tout au long de l'âge. Alors comment au monde le bœuf ou l'homme ou les bêtes qui chevauchaient, comment pourraient-ils être révélés avant la venue des aigles? Ils avaient leur place. C'était des êtres vivants envoyés par Dieu comme tous les autres. Le lion, c'était à l'origine. C'est ce que l'Antichrist a combattu. Ensuite, Dieu a suscité une autre puissance et l'Antichrist a envoyé une autre à sa rencontre. Et Dieu suscita encore une autre puissance. Et l'Antichrist envoya une à sa rencontre. Et puis, il envoie l'aigle pour restaurer les enfants à la foi originelle des pères à nouveau. L'âge de l'aigle. Avez-vous remarqué que maintenant il n'y a plus de bêtes? C'est tout. C'est la fin. Maintenant, si vous voulez bien prendre Apocalypse 10:2-7, je m'y suis déjà référé, souvenez-vous, dans l'âge du dernier messager, que devait-il arriver? Tous les mystères de Dieu seraient révélés. L'aigle. Maintenant, avez-vous vu la chevauchée des quatre bêtes? C'était parfaitement juste. Croyez-vous cela? Et maintenant, voici ici chaque âge ou chaque puissance qui chevauchait derrière lui. Et voilà les Écritures qui montrent ce que faisait le cavalier de l'ennemi. Ça a été révélé dans ses sceaux. Et aussi, cela a été révélé maintenant que chacune de ces puissances de bêtes que Dieu a envoyées par Dieu pour combattre correspond exactement point par point jusqu'au temps de l'aigle. Si nous sommes maintenant au temps de la fin, un aigle va venir. C'est vrai. Et à cela, souvenez-vous, au jour du lion, la parole originelle, il n'y a pas plus d'une personne sur 100 qui a écouté le lion. Au jour de la venue du bœuf, il n'y a guère qu'une petite poignée de personnes pour écouter le message du bœuf. Au jour de la venue de l'homme, il agit parmi les hommes, vous voyez. Il était perspicace. Il fit sortir un petit groupe. Et que firent-ils? Satan vit cela, c'est pourquoi il les ramena tout simplement en arrière, en les mariant au système. Et souvenez-vous, lorsque l'aigle finalement viendra, il n'y aura qu'un pour cent d'un pour cent qui écoutera. C'est l'âge de l'aigle. Souvenez-vous, tous ces autres cavaliers. Et alors, Jésus lui-même a prédit que s'il ne hâtait pas sa venue, il n'y aurait aucune chair qui puisse être sauvée. Est-ce que ce sont les Écritures? Voyez-vous, nous en sommes, n'est-ce pas, frères et sœurs? Voyez, nous en sommes. Oh Dieu, je suis si heureux. Je ne sais que faire. Ce n'est pas simplement moi qui suis ici pour parler. Je suis l'un de vous. Je suis parmi vous. C'est moi. J'ai une famille. Et j'ai des frères et des sœurs que j'aime. Et le Dieu du ciel a été assez bon pour descendre lui-même, révéler ces choses par des visions qui ont été prouvées depuis 30 années comme étant la vérité. Nous sommes arrivés. La recherche scientifique l'a prouvé. La confirmation de la parole l'a prouvé. Et nous sommes ici. Et cette révélation vient de Dieu. Elle est la vérité. Avez-vous saisi quelque chose? Alors, je n'aurais peut-être pas besoin d'en parler dimanche. Remarquez. Merveilleux. Maintenant. Remarquez maintenant. Alors, selon le temps où Dieu allait délivrer le monde antédiluvien, il envoya l'aigle. Au temps où il allait délivrer Israël, il envoya l'aigle. Croyez-vous qu'au temps où Jean reçut ce message sur l'île de Patmos, celui-ci était si parfait que Dieu ne pouvait même pas le confier à un ange? Vous savez, un ange est un messager. Mais saviez-vous que le messager est un prophète? Croyez-vous cela? Prouvons-le. Apocalypse 22. Voyons si c'était un aigle. Bien sûr, c'est un ange, c'est un messager. Mais c'était un prophète qui a révélé tout ce livre de l'Apocalypse à Jean. Apocalypse 22, au verset 19. Je crois que c'est juste. Si je l'ai écrit ici, 22, 19, c'est peut-être pas cela. 22, 9. Voilà ce que c'est. 22, 9. Ah oui. Alors il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Remarquez ce que Jean a vu ici. Moi, Jean, j'ai vu ces choses, je les ai entendues. Maintenant, il termine, c'est le dernier chapitre. Et quand j'eus entendu et que j'eus vu, je tombai pour adorer ici au pied de l'ange qui me montrait ces choses. Et lui, voyez, l'ange, il m'a dit, garde-toi de le faire, aucun vrai prophète ne se laisserait adorer un ministre, voyez. Alors il me dit, garde-toi de le faire parce que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voyez-vous? Le livre était si important qu'il est la parole de Dieu maintenant. Regardez. Et lorsque la parole de Dieu est apportée, il faut qu'elle soit apportée par le prophète, parce que c'est à lui que vient la parole de Dieu. Je m'attendais à trouver dans la boîte une question à ce sujet. J'ai pensé en parler. Je sens qu'il y en a une là-dedans. C'est pourquoi je pense que j'aborderai le sujet, voyez-vous. Chaque parole de Dieu a besoin d'être apportée. La Bible ne change pas du tout son système. C'est la même chose. Ça doit venir à ce voyant dont nous attendons la venue. Remarquez Apocalypse 10, 2 à 7. Maintenant, lisons le verset 9 à nouveau. Avant d'arriver à ce verset, j'aimerais vous poser quelque chose. Voyez-vous parfaitement, avant que nous quittions ces seaux, maintenant souvenez-vous, qu'il n'y a plus de puissance qui sorte après cet aigle. Il n'y en a plus. Chaque fois que l'Antichrist a envoyé quelque chose, Dieu a envoyé une puissance. L'Antichrist envoyait-il une autre puissance? Dieu a envoyé quelque chose pour la combattre. Puis il envoyait une autre puissance et Dieu a envoyé quelque chose pour la combattre. Puis il en arriva à l'aigle, c'était sa parole, reprenant la place qu'elle avait en premier lieu. Maintenant regardez. Le prophète dont nous attendons la venue n'est-il pas un homme ou un de l'esprit comme Élie? Bien sûr, ce ne sera pas Élie, mais ce sera un homme comme lui qui descendra et son ministère même est d'envoyer, de restaurer à la foi originelle des pères ce peuple tombé à cause des perversions dénominationnelles. Tout cela ne montre-t-il pas à quel point tout se tient dans la Bible? Je ne peux rien dire de plus car c'est ainsi. Oui, ça vient d'arriver, c'est la vérité. Si vous en retranchez quoi que ce soit, vous la tordez. Ainsi, ce doit être ainsi. Maintenant, remarquons. Au verset 9, les âmes sous l'autel. Maintenant, c'est ici que nous allons commencer à être réellement en désaccord. Mais attendez juste une minute. Je pensais cela aussi, mais ce n'est pas venu ainsi. J'ai toujours pensé que ces âmes sous l'autel étaient les martyrs de l'Église primitive. Je suis sûr que le docteur Elias Smith et les autres disent que c'est cela. Et je le pensais moi-même. Mais quand le Saint-Esprit m'a montré la vision, ce n'était pas ainsi. Et je ne sais pas cela. Eh bien, attendez une minute. Ces âmes ne sont pas celles de l'Église épouse, pas du tout. Nous pensions que c'était l'Église épouse, ces âmes qui attendaient sous l'autel en criant, « Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand ?» Lisons ce passage maintenant pour bien le comprendre. « Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. » La parole de Dieu et le témoignage qu'il rendait. Ne bougeons pas de là, juste une minute. Et elle criait, « Combien de temps, Seigneur, combien de temps ?» Jusqu'à quand, souverain, ne juges-tu pas et venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Il leur fut donné chacun une robe blanche. Il leur fut dit qu'ils se reposent encore un peu de temps, une saison, jusqu'à ce que leurs compagnons d'esclavage aussi et leurs frères, qui devaient être mis à mort, comme eux aussi, soient au complet. À ce moment-là, si vous le remarquez, ce cinquième sceau étant ouvert, voyez, l'Église est partie. Ça ne peut pas être les âmes de l'Église primitive. Maintenant, s'il vous plaît, faites bien attention ici parce qu'il y a une grande controverse. Je veux que vous écoutiez bien attentivement. Vous avez de quoi prendre note. Je veux que vous remarquiez. Donc, ce ne peuvent pas être ces âmes parce que les âmes des martyrs justes et des personnes justes, l'Église, l'épouse, ont été enlevées. Ainsi, elles ne sont pas sous l'autel. Elles sont dans la gloire avec l'époux. Avec l'épouse. Remarquez. Elles sont parties dans l'enlèvement au quatrième chapitre de l'Apocalypse. Elles ont été enlevées. Alors, qui sont ces âmes? Ce sont celles qui viendront après. Qui sont-elles si elles ne sont pas l'Église primitive? Il s'agit d'Israël qui doit être sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, C'est Israël. C'est Israël lui-même. Vous direz, oh, attendez une minute, ils ne peuvent pas. Oh oui, ils seront sauvés. Mettons les choses au point ici même. J'ai relevé 4 ou 5 passages des Écritures. J'en prendrai un. Prenons Romains, le livre des Romains, au 11e chapitre. Nous allons découvrir, lisons-le. Romains, 11e chapitre, versets 25 et 26. Écoutez Paul ici. Paul dit que si quelqu'un d'autre, même un ange, prêche un autre évangile, que devait-il être? Anathème, maudit. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez sage à vos propres yeux. L'aveuglement est tombé sur Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Les derniers de l'épouse des nations doivent être introduits dans l'épouse. C'est dans ce but qu'Israël a été aveuglé. Et tout Israël ainsi sera sauvé selon qu'il est écrit. Il viendra de Sion, le libérateur. Et il retournera de Jacob les impiétés. Est-ce juste? Maintenant, c'est Israël qui est sous l'autel. Israël a été aveuglé dans le but même que nous soyons sauvés. Croyez-vous cela? Qui les a aveuglés? C'est Dieu. Dieu a aveuglé ses propres enfants. Il n'est pas étonnant que lors de la crucifixion de Jésus, les Juifs avaient réclamé son sang à grands cris. C'était ses propres enfants. Et lui était l'Écriture. Il était lui-même la parole. Et il savait que ces gens le recevraient volontiers. C'est la raison pour laquelle il les a aveuglés. De manière qu'ils ne le reconnaissent pas. Il est venu d'une manière si humble et les a aveuglés afin qu'ils ne le reçoivent pas. Les Écritures ont dit qu'ils le feraient. Et il les a aveuglés. Ils ont été aveuglés. Jésus a lui-même eu pitié d'eux au point de dire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils étaient aveugles. Paul a dit qu'ils étaient aveugles pour une raison, pour nous. Remarquez. Maintenant, je veux que vous fassiez bien attention. Il leur fut donné des robes. Ils n'en avaient pas. Il leur fut donné des robes blanches à chacun d'eux. Maintenant, les saints en avaient déjà une. Ils la reçurent ici. Mais là, il leur fut donné des robes, alors que les saints avaient déjà la leur et étaient partis. Voyez? Ils n'avaient aucune chance parce qu'ils étaient aveuglés par Dieu, leur propre Père, afin que la grâce de Dieu puisse être accomplie et que l'épouse puisse être prise d'entre les nations. Est-ce vrai? Laissez-moi vous montrer ici un beau type en Joseph. Joseph était l'homme spirituel, l'aigle, né au milieu de ses frères, exactement comme la vraie église au milieu des autres. Il pouvait interpréter des songes, avoir des visions. Les autres le haïssaient, mais son père l'aimait. Remarquez qu'ensuite, il fut rejeté par ses frères, mais pas par son père. Il fut rejeté par ses frères et vendu pour presque 30 pièces d'argent. Il fut jeté dans une citerne et passa pour mort. Ensuite, il fut placé à la droite de Pharaon. Et parce qu'il avait été rejeté par ses frères, voyez-vous, il a reçu une épouse des nations. Non pas par son propre peuple, Éphraïm, Manassé, qui ont été ajoutés à Israël. Bénédiction en croisant les mains du jeune au plus vieux, il a croisé la bénédiction des Juifs vers les nations. Voyez-vous? Il a croisé les mains, le plus jeune fils qui représente la plus jeune église, la mère église qui se tient dans le soleil, elle donne naissance à cet enfant, remarquez, pour l'avoir, Israël a croisé les mains en type. Et Joseph, ses deux enfants avaient une mère venue des nations, l'épouse d'Israël. À la suite de ce croisement de mains, l'épouse est passée de l'ancienne orthodoxie au christianisme par le Saint-Esprit qui avait croisé les mains d'Israël. Il a dit, c'est Dieu qui a croisé mes mains, il n'avait rien à voir là-dedans. Remarquez, Joseph, rejeté par ses propres frères, son propre peuple, pris une épouse des nations. C'est exactement ce que Jésus a fait. Rejeté par les Juifs, il a pris une épouse des nations. Lisons quelque chose ici. J'ai une écriture, Acte 15. Et c'est ce que nous sommes censés enseigner de toute manière. Je crois que j'ai ça correctement. Acte 15, 14. J'espère que c'est juste. Très bien. Commençons à verset 13. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Et voyons ce qui s'est passé quand ils sont allés vers les païens. Et il y avait des disputes parce qu'ils étaient des juifs. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi, Simon, c'est Simon-Pierre, a déclaré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple pour son nom. » Voyez-vous, le nom de ma femme était Broy. Lorsque je l'ai prise, elle est devenue une Branham. Jésus prend son église, ou plutôt son épouse, hors des gentils, des nations, dans les Écritures, comme Joseph était un type de cela, remarquez. Nous comprenons maintenant pourquoi ces âmes sous l'autel, ces âmes, comprenant maintenant sous l'autel, pourquoi elles ont été martyrisées par un homme pécheur comme Eichmann, elles ont tenu ferme, des millions d'entre elles, mais c'était des Juifs. Maintenant, souvenez-vous, qu'est-ce que c'était? Ils furent tués à cause de la parole de Dieu, et non pas à cause du témoignage de Christ, comprenez-vous cela, mais rappelez-vous que l'Église est entrée, ainsi que les martyrs de l'Église, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Combien ici savent cela? Très bien. Mais ceux-ci n'avaient pas le témoignage de Jésus-Christ pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont les Juifs. Et Hitler les haïssait, de même Eichmann, Staline et le reste. Mais eux restèrent fidèles à ce qu'ils croyaient. Et on les a tués parce qu'ils étaient Juifs. Saviez-vous que Martin Luther avait un peu la même idée aussi? C'est la vérité. Il disait, tous les Juifs devraient être retranchés. Ils sont antichrist, voyez-vous. Mais il était sous une autre dispensation. Il ne voyait pas la parole. Maintenant, la parole de vérité sort. Comment pourriez-vous jamais effacer Israël? Vous ne pouvez pas le faire. Oh, comment ce prophète pouvait-il se tenir là-haut en ce jour et dire, tu es semblable à un unicorne, un buffle Israël, alors qu'on cherchait à le montrer sous son aspect le plus défavorable. Il dit, béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. C'est vrai. Oh, mes frères, comment pourriez-vous faire cela? Une fois, ils pensèrent que Dieu voulait les oublier lorsque le prophète fit venir ces choses, les ténèbres sur les Juifs. Cet homme qui se tenait là, alors que la parole de Dieu coulait en lui, « Oh Seigneur, vas-tu abandonner ton peuple ?» Dieu répondit, « Qu'a-t-il près de toi ? Une canne à mesurer. Quelle est la hauteur du ciel ? Mesure-la. Quelle est la profondeur de la mer ?» Il a dit, « Je ne puis. » Alors Dieu dit, « Moi non plus, je ne pourrai jamais oublier Israël. » Non, monsieur, il ne l'oubliera jamais. Il avait dû aveugler son propre enfant. Pensez à cela. Aveugler son propre enfant pour nous donner une chance et nous l'avons rejeté. Cela ne vous fait-il pas vous sentir si petit que vous pourriez ramper? Ramper sous un bloc de béton sans même le toucher. C'est pas mal petit. Oh là là. Oui, ils se tenaient à la parole de Dieu, ils étaient des Juifs, ils avaient leur loi, ils s'y tenaient. Rappelez-vous hier soir maintenant, ils se sont tenus à cela. C'était des Juifs, ils avaient la loi, et la loi était la parole de Dieu. Ils se tenaient à elle, c'est vrai. Et pour le témoignage qu'ils avaient rendu, ils furent martyrisés. Et voici maintenant leurs âmes sous l'autel, après que l'Église soit partie. Maintenant regardez. Ils avaient, dans leur aveuglement, martyrisé leur Messie. Et maintenant, ils en récoltaient les fruits. ils l'ont réalisé. Ils le reconnurent après un temps. Ils les ont vus lorsqu'ils vinrent sur l'autel de Dieu. Mais maintenant, la grâce de Dieu est pour eux. Regardez. Ce ne pouvait être en aucune façon des saints parce qu'ils auraient déjà été revêtus de robes. Mais ici, maintenant, ce sont les âmes sous l'autel à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu parce que c'était le peuple de Dieu, les Juifs. Mais remarquez, la grâce de Dieu vient à eux et Jésus leur donne à chacun une robe blanche. Juste après le départ de l'Église, parce qu'ils avaient été loyaux envers leur cause et ils étaient aveuglés, ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils jouaient exactement le rôle que Dieu les avait destinés à jouer. Et ici, Jean lève les yeux et il voit les âmes sous l'autel. Regardez, il voit ces âmes. Regardez comment il les appelle. Elles crient. Seigneur, jusqu'à quand? Juste un peu de temps. Regardons ça dans les Écritures. Ils ont réalisé qu'ils avaient tué leur Messie, voyez-vous. Ils furent mis à mort en retour afin de payer pour le mal qu'ils avaient fait. Voyez quelle chose ils avaient dû faire. Voyez, ils étaient coupables de meurtre, c'est pourquoi ils furent mis à mort. Ils avaient crié, que son sang soit sur nous. C'est juste. Et ils furent aveuglés. S'ils n'avaient pas été aveuglés, Dieu aurait dit, ne vous en occupez pas, laissez-les tranquilles, ils ne sont pas dignes. Mais étant donné qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, sa grâce descendit sur eux et les toucha. Amen. Vous parlez d'une grâce étonnante. Et il leur donne à chacun une robe, parce que tout Israël sera sauvé. Le nom de chacun d'eux est inscrit, c'est vrai. Jésus leur donne des robes, comme Joseph à ses frères. C'est un type. Regardez, lorsque Joseph s'est tenu là et que finalement il se fit connaître près de l'autel, son propre autel, où il y a, dans son palais, il y avait son trône. Il a dit que tout le monde sorte. Sa femme était déjà là-bas, dans le palais, là où se trouvera l'épouse. Et il leur dit, « Ne me reconnaissez-vous pas ?» Maintenant, il parlait en hébreu. « Je suis votre frère, Joseph. » Oh là là. Maintenant, tu vas t'emparer de nous. Attendez une minute. Dieu a fait ça dans un but. Il fallait que vous me rejetiez afin que vos vies soient sauvées. Gloire ! Vous y voilà. Ne soyez pas fâchés contre vous-même. Vous vous souvenez que Joseph a dit cela. Ne soyez pas fâchés contre vous-même. Tout va bien maintenant. Tout est terminé. C'est Dieu qui m'a envoyé ici devant vous. Vous savez, la Bible dit que lorsqu'il le verrait, il dirait la même chose. Tu es le Messie, nous savons. Mais d'où viennent ces cicatrices? Il répondra, je les ai reçues dans la maison de mes amis. Les amis! Et quand ils réaliseront cela, ceux qui sont restés, les 144 000, la Bible dit que chacun se séparera l'un de l'autre et qu'ils vont simplement passer des journées à crier, à se lamenter, à lancer là en disant « Comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous fait cela? Nous qui avons crucifié notre propre Messie, pleurer comme une famille le fait pour son Fils unique. Comment avons-nous fait cela? Les Juifs sont le peuple le plus religieux du monde. Dieu les a choisis, mais il les a aveuglés pour nous prendre. Et nous avons rejeté cela. Quel est le jugement de l'Église des nations, Église? Vous y voilà. Aveuglés dans un but par Dieu, afin qu'il puisse nous prendre, l'épouse, pour Jésus. Voyez-vous, un type. Voyez-vous maintenant, ces âmes, ce ne sont pas celles des saints martyrs, ils sont partis, c'est vrai. Remarquez, ils sont partis. Ainsi, ces âmes, il leur est donné une robe. Et maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Maintenant, la grâce de Dieu s'abaisse jusqu'à elles. Jésus leur donne à chacun une robe, comme Joseph le fit dans sa grâce envers ses frères. Maintenant, regardez. Bien qu'ils essayent, ils aient essayé de se débarrasser de Joseph, sa grâce s'étendit jusqu'à eux. C'est en ordre. Vous n'aviez pas l'intention de faire cela. Mais vous voyez, c'est Dieu qui a fait cela. Dieu vous a laissé faire ces choses afin que vous puissiez me chasser, m'amener ici et que je puisse sauver la vie des gens. Les nations ici, d'où j'ai reçu ma femme. Je n'aurais pas eu de femme si j'étais resté là-bas. J'aime ma femme et elle m'a donné ses enfants. Et maintenant, je viens pour vous prendre tous. Maintenant, vous allez avoir du bon temps, vous aussi. Je vais vous faire descendre ici. Nous allons tous vivre ensemble comme une seule grande famille. Il a dit, j'aimerais demander quelque chose. Est-ce que mon vieux père est encore en vie? Observez ce qu'il a fait au petit Benjamin, qui est le type des 144 000, comme nous le verrons plus tard. Oui, ce qu'il a fait, il courut vers Benjamin, lui sauta au cou et le serra dans ses bras. Son petit frère, né dans la famille, après son départ. Né par sa mère. La première église, l'église orthodoxe, les 144 000 naquirent pendant son absence. Tandis qu'il était parti pour recevoir une épouse des nations. Oh, mes frères, est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose? Voyez-vous qui ils sont? Remarquez que bien qu'ils essaient, de se débarrasser de Joseph, sa grâce parvint jusqu'à eux. Bien qu'ils essaient de se débarrasser de Jésus, il revient encore parce qu'ils étaient aveugles et il donne à chacun une robe blanche. Il les prend dans sa maison de toute façon. Ça ne fait aucune différence pour lui. Je les sauverai de toute façon. Maintenant, regarde verset 10. Ils demandaient vengeance, voyez-vous. Si c'était agi de l'épouse, ils auraient dit comme Étienne, père, pardonne-leur. Mais ici, c'était des Juifs, voyez-vous, qui viennent d'entrer. Ils demandent vengeance. Remarquez, à nouveau, il dit, ce sont tes frères, les Juifs. Ils voulaient leur revanche. Ils disaient, « Oh, nous aimerions que tu viennes nous venger ici en bas. » Il a dit, « Encore un peu de temps, encore un peu de temps. » Laissez-moi le lire ici, au verset 10. « Et elle criait à haute voix, disant, « Jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit qu'ils devraient se reposer encore une petite saison, voyez-vous, une petite saison, jusqu'à ce que leurs compagnons de service, qu'est-ce que c'est? Les prophètes, maintenant, qui sont en train de prêcher à Israël, que leurs compagnons d'esclavage, et aussi leurs frères, qui devaient être mis à mort, vous voyez, ceux qui sont prédestinés à être mis à mort, comme eux, soit au complet. En d'autres termes, ils sont prédestinés à cela. Ce sont les Écritures qui doivent s'accomplir. Ils doivent se reposer un petit temps. Maintenant, vous avez vos robes et vous allez rentrer à la maison. Restez assis là encore un peu de temps, voyez-vous. Remarquez. Tes frères doivent encore être mis à mort, ce qui signifie que les 144 000 doivent encore être appelés dans la tribulation. 144 000 qui sont appelés. J'aimerais avoir du temps. Nous pourrions étudier ce sujet demain soir, Dieu voulant, juste avant de passer à un autre saut. Aussi, regardez, ils devaient être martyrisés par l'Antéchrist dans sa dernière chevauchée, nous voyons ici, lorsqu'il brise cette alliance avec les Juifs là-bas et qu'il poursuit sa course. Ces Juifs, les 144 000, doivent être appelés à sortir par les deux témoins d'Apocalypse 11. Vous vous souvenez qu'ils prophétiseraient. Vous avez lu cela. Combien ont lu cela? Certes, nous connaissons tous les Écritures. Et ils ont prophétisé, ces deux témoins ont prophétisé, au temps de la seconde moitié des 70 semaines de Daniel. Il s'agit là des derniers 3 ans et demi. Vous souvenez-vous comment nous avons étudié les 70 semaines de Daniel? J'ai dit que nous aurions besoin lorsque nous arriverions ici. Je n'en connaissais pas la raison, mais nous y voilà. Remarquez, au temps de Daniel, souvenez-vous qu'il fut dit à Daniel que le Messie viendrait, le prince, le Messie plutôt, et qu'il prophétiserait. Israël avait encore 70 semaines, et au milieu de la 70e semaine, le Messie serait retranché et le sacrifice quotidien supprimé, n'est-ce pas vrai? Mais il restait encore 3 semaines et demie déterminées. Dans cette période, il prend l'épouse des nations. Maintenant, elle monte, et quand elle monte, 2 prophètes arrivent en Israël, voyez? Et ces âmes qui avaient été martyrisées jusque-là, ces vrais Juifs qui avaient été jusque-là, leur nom était inscrit dans le livre, ils vivaient la vie droite, avaient fait ce qui est juste, vivant le judaïsme point par point. Ils furent martyrisés par Eichmann et bien d'autres, des gens honnêtes, il y en eut des millions, que les Allemands ont fusillé, assassiné, tué, les ont pendus aux clôtures, brûlés, les détruisant dans les fours crématoires et tout le reste. Ces hommes assoiffés de sang, Hitler, Staline, Mussolini et tous ces gens qui haïssaient les Juifs. Je pense que l'une des choses qui maintiennent cette nation ensemble, c'est qu'on y a toujours respecté les Juifs, qu'on leur a donné une place. Si vous honorez un Juif, Dieu vous honorera. Il y a tout un groupe de Juifs qui ne sont que des renégats, exactement comme parmi les nations, c'est pareil, mais un vrai Juif, Dieu a inscrit son nom dans le livre avant la fondation du monde. Et dans ce temps, ils ont été mis à mort. Pensez-y maintenant comme c'est parfait. Juste après que des millions de Juifs, de gens innocents, aient été massacrés par les nations du monde, les Écritures disent ici qu'à ce moment-là, chacun est sous l'autel, réalisant ce qui est arrivé. Et il leur est donné des robes blanches. Et il disait, ne pouvons-nous pas rentrer tout de suite dans le royaume? Le royaume juif doit être établi sur la terre, vous savez, Jean l'a dit. C'est le royaume de l'Évangile, vous voyez. Mais le royaume des Juifs sera prêché par ces deux prophètes. Remarquez donc ici, le royaume de la terre, le royaume des cieux est prêché aux nations. Je veux dire, aux gentils, les nations, le royaume ici sur la terre sera établi dans le millénium par les Juifs. Remarquez ici maintenant. Ici, avant même que ces deux témoins entrent en scène, avant que ces deux prophètes, ces Juifs qui furent mis à mort par Eichmann et les autres, à chacun de ceux qui ont été prédestinés, il leur est donné par grâce une robe blanche. À chacun d'eux, il leur est donné une robe blanche. Remarquez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès que ça arrive, je regarde cette horloge-là, je vois que l'heure avance. Et je vois tous ces pauvres gens debout là-bas. Que Dieu vous aide, les frères. J'espère qu'il vous sera aussi donné une robe blanche ce jour-là. Vous êtes debout, vous appuyant tantôt sur une jambe, l'autre. Et les jambes qui vous font mal, je sais ce que c'est, après avoir travaillé toute la journée. Et je vois des pauvres femmes âgées. Quelques hommes leur donnent leur siège, là, laissant la place à une mère et son enfant. Je vois tout cela. Et je suis sûr que lui aussi le voit. Remarquez. Mais c'est pourquoi je ne voudrais pas vous garder trop longtemps. Si je peux simplement vous amener à voir le message, c'est tout ce que je désire. Maintenant, regardez. Ces Juifs, je dois faire ceci afin de vous montrer la révélation de ce sceau pour que vous voyez ces âmes sous l'autel et qui elles sont. Maintenant, remarquez. Au temps de Daniel, maintenant, la deuxième moitié de la semaine de Daniel, le Messie devait être retranché au milieu. Qu'est-ce que c'est la moitié de sept? Trois et demi. Combien de temps Christ a-t-il prêché? Trois ans et demi, c'est juste, mais il est déterminé maintenant pour le peuple d'Israël, encore trois ans et demi. Et pendant ce temps, voyez ce qui arrive à l'épouse des nations qui a été choisie dans les sept âges de l'Église et qui est enlevée. Et quand cela arrive, tous ces Juifs qui ont été martyrisés à cause de l'aveuglement et qui sont maintenant sous l'autel, Dieu vient à eux et leur dit, « Voyez-vous ce qui s'est passé? Maintenant, je vais donner à chacun de vous une robe blanche. » Ils disaient, « Combien de temps, Seigneur, allons-nous entrer? » Non, 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 non. Vos compagnons de service, les Juifs, doivent encore souffrir un petit peu. Ils doivent encore être martyrisés comme vous, la bête, doit se saisir d'eux lorsqu'ils rompront l'alliance. Maintenant, remarquez. Souvenez-vous. Souvenez-vous donc que ces prophètes doivent prophétiser selon Apocalypse 11. Vous avez levé la main pour montrer que vous l'aviez lu. Et ils recevront la puissance, et si Dieu le permet, nous découvrirons dans un instant qui ils sont. Remarquez maintenant ces prophètes. Et la Bible le dit, certainement, c'est sûr. Remarquez, au milieu de ces trois semaines et demie pendant lesquelles ils prophétisent, là sur la terre, et l'Apocalypse dit qu'ils prophétiseront 1360 jours. Le calendrier juif, qui est le calendrier normal de Dieu, compte exactement 30 jours par mois. Le calendrier romain, le calendrier normal a 30 jours par mois. Si vous voulez prendre 3 ans et demi en moins de 30 jours, vous obtiendrez 1360 jours. 1260 jours. Exactement 3 ans et demi. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a aucune erreur. Cela correspond exactement. Ça s'emboîte parfaitement. Deux prophètes ont prêché 3 ans et demi aux Juifs. Et c'est alors que les 144 000 sont appelés. Ces deux prophètes sont exactement Moïse et Élie. Regardez leur ministère. Observez ce que font ces prophètes. Ils ont le pouvoir de frapper la terre d'une plaie aussi souvent qu'ils veulent. qui a fait cela? Moïse. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur ministère. Qui a fermé les cieux pendant 3 ans et demi? Élie. Vous y voilà. Ce sont eux. Voyez-vous, l'homme, quand il meurt, sa condition ne change pas. Voyez-vous, ce qu'il a été fait ne change pas. Lorsque Saül rétrograda et qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays, il ne pouvait comprendre ce qu'il devait faire. Il était dans une mauvaise posture, il devait monter à la bataille. Il est allé trouver la sorcière d'Endor. Elle pouvait faire simplement cela avec le sang des taureaux et des boucs. Elle a invoqué l'esprit de Samuel. Et lorsque Samuel monta, il se tint là, dans sa robe de prophète. Non seulement cela, mais il était toujours un prophète. Il a dit, « Pourquoi m'as-tu tiré de mon repos ?» Alors que tu es devenu ennemi de Dieu. Il a dit, à cette heure-ci, demain soir, tu tomberas dans la bataille, à cette heure-ci, demain soir, tu seras avec moi. C'est exactement ce qui est arrivé. Il était toujours un prophète. Et ces personnages-ci sont toujours des prophètes. Nous allons approfondir cela dans quelques minutes. Oh là là, combien j'aime cette parole. Il n'est pas étonnant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces deux prophètes sont Moïse et Élie, selon le modèle des œuvres qu'ils ont de nouveau refaites. Cela a toujours été leur ministère. Maintenant, par rapport à ce qu'ils avaient fait, ils n'ont pas changé. Rappelez-vous que ces hommes ne sont jamais morts. Maintenant, qu'il n'y ait pas de confusion. Ne confondez pas le cinquième ministère d'Élie avec son quatrième ministère. Je vous l'ai dit, l'Église des Nations s'attend à la venue d'Élie. C'est vrai. Et ici, il est avec les Juifs. Souvenez-vous, il ne peut venir 4 fois. C'est le nombre de l'ennemi. Il faut que ce soit 5 fois. La première fois qu'il est venu, c'était Élie lui-même. La deuxième fois qu'il est venu, c'était Élisée. La fois suivante, il était Jean-Baptiste. La fois suivante, c'est pour le 7e ange. Et quand il viendra la 5e fois, là-bas avec Moïse. Oui, qu'il n'y ait pas de confusion. 5. Si vous connaissez les nombres de la Bible, 5 est le nombre de la grâce agissante à l'œuvre, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, observez ceci. Si vous ne savez pas ce que c'est Jésus, n'était-il pas une œuvre de grâce? J-E-S-U-S, 5. L-A-B-O-R, le labeur. Labeur d'amour pour vous. Et vous arrivez, comment? Par la foi, en anglais, F-A-I-T-H. Manifesté par L-A-B-O-R, les œuvres. Voyez-vous, les œuvres, le nombre de la grâce. Remarquez, pour les croyants, le premier Élie, c'était lui. Le deuxième fut Élisée, le troisième fut Jean. Le quatrième fut le 7e ange, ou le dernier messager à l'Église, selon Malachi 4 et Apocalypse 17. La 5e fois, il est un messager pour les Juifs, pour les 144 000, pour les Juifs, après que l'Église soit partie. J'ai une sensation un peu bizarre. Je voudrais bien que vous compreniez ces choses maintenant. Si certains pensent encore que le prophète de Malachi 4, qui doit ramener les gens, est le même que celui qui doit descendre chez les Juifs, s'ils pensent que c'est la même personne, laissez-moi corriger ces choses pendant quelques minutes. C'est un peu déconcertant. Rappelez-vous que dans Malachi 4, il a dit qu'il ramènera la foi des enfants à leur père. Voyez, à leur père. Laissez-moi vous montrer la différence de ministère. S'il venait pour ramener les enfants à la foi des pères, il rejetterait Christ. Il retournerait à la loi. N'est-ce pas vrai? Les pères gardaient la loi. Vous saisissez? Lorsqu'Élie vient accomplir son ministère dans Malachi 4, Élie était seul, mais lorsqu'il est venu exercer son ministère avec les Juifs, il a Moïse avec lui. Donc il n'y a pas de confusion. Vous avez saisi? Quand Élie vient dans Malachi 4, il est seul. Ensuite, Moïse viendra avec Élie. Élie se lèvera. Mais la même inspiration qui dit que Élie viendrait dans la dernière partie de l'âge de l'Église afin de restaurer la foi des enfants à la foi originelle des pères, la foi apostolique à laquelle vous êtes censé revenir. Mais l'Antéchrist les a tous attirés au dehors. Le prophète était venu pour ramener, comme le montre l'ensemble des Écritures, vous voyez. Il vient seul. Vous voyez? Mais quand il vient pour les 144 000, la Bible dit clairement qu'il n'y en a pas un, mais qu'ils sont deux. Et ce ministère ne pouvait pas ramener les Juifs à la loi parce qu'il vient prêcher aux 144 000 Christ, le Messie qui avait été retranché. Amen. Voilà. C'est pourquoi ne confondez pas, ce n'est pas confus. Les Écritures ne mentent pas, pas le moins du monde. Gloire à Dieu. Oh, quand j'ai vu cette lumière, j'ai dit, merci Seigneur. Quand j'observais ces choses se dérouler devant moi, quand je vis Élie sortir seul dans son premier âge, il était seul alors, mais quand je le verrai après être ailleurs, il n'était plus seul. Il y avait deux personnes. Et je me suis crié, Amen, c'est ça Seigneur, je le vois maintenant. Ça pourrait paraître un peu confus à certains, mais il m'a dit de le mentionner, c'est pourquoi je l'ai fait. Remarquez. Ces hommes sont maintenant vivants par Dieu depuis leur ministère originel pour un service futur. Ils avaient tellement bien servi, voyez. Pensez-y, l'esprit d'Élie exerce son ministère 5 fois. Celui de Moïse 2 fois. Remarquez qu'ils sont gardés en vie pour un service ultérieur. Aucun d'eux n'est mort maintenant. Ils ont été vus tous les deux vivants parlant à Jésus sur le mont de la Transfiguration. Mais souvenez-vous, ils doivent mourir. Moïse est mort en réalité, mais il s'est relevé parce qu'il est un type parfait de Christ, voyez-vous. Personne n'a jamais su où il avait été enseveli. Les anges sont venus le prendre. Il y eut des anges comme porteurs de cercueil. Aucun mortel ne pouvait l'amener là où il devait aller. Il avait terminé son rôle, c'est tout. Des anges transportèrent sa dépouille là où elle devait aller et personne ne sait où. Personne ne sait. Même Satan ne le savait pas et il disputa le corps à l'archange. Il dit, je ne peux pas comprendre ce qui est arrivé à Moïse. Je l'ai vu là-haut, tremblant. Regardant le pays tout entier, et regardant en arrière, vers les enfants d'Israël, je l'ai vu trembler, puis monter sur le rocher, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est le rocher. Que je me tienne sur ce rocher à la fin de ma route. Mon frère de couleur avait l'habitude de chanter ce chant. Si je le pouvais, je me tiendrais certainement debout sur ce rocher où se tenait Moïse. Oh, certainement. C'est le rocher sur lequel je veux me tenir et je m'y tiens par la foi. Mais souvenez-vous qu'Élie était fatigué, tout simplement, parce qu'il avait encore beaucoup de travail à faire. Ainsi, il était pas mal usé et Dieu lui envoyait un char qui l'emporta à la maison. Il n'est jamais mort. Est-ce que Dieu l'a gardé en vie? Il avait une œuvre future pour lui. Qu'il oigne un homme et entre dans son esprit. Mais ils doivent goûter à la mort. Maintenant, dans Apocalypse au chapitre 11, je suis sur ce passage, observez, s'ils ne sont pas tués tous les deux. Certainement, ils doivent tous les deux goûter à la mort. Après la fin de leur ministère, ils goûtent à la mort. Apocalypse 11, commençons au verset 7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Oh là là, il ne peut supporter ces fanatiques, ces saints comédiens. Très bien. Alors, elle sort de l'abîme et leur fait la guerre. Et il les vaincra et les mettra à mort. Et observez ce qui se passe. Ils sont parfaitement représentés maintenant. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi le Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Alors ne doivent-ils pas goûter à la mort, c'est juste, après la fin de leur ministère? Pourquoi? Le ministère du septième ange, le ministère du septième ange, le ministère d'Élie au septième ange, pourquoi ne pouvait-il pas être, j'essaie de dire, le ministère du septième ange exercé par Moïse, aussi bien que par Élie, s'il était immortel? Et Dieu n'a-t-il pas dit, Élie, tu as tellement travaillé et tout le reste à tous ces différents endroits, je crois que je vais simplement envoyer Moïse. Pourquoi? Regardez le ministère de Moïse. Élie était un prophète pour toutes les nations, mais Moïse était un législateur seulement pour les Juifs. C'est la raison pour laquelle Moïse vient avec Élie. Ces Juifs disent, attendez, ici nous gardons toujours la loi. Et voilà qu'il y a Moïse lui-même. Élie est avec lui. Alléluia. Il vient seulement pour les Juifs. Seulement, voyez. Moïse ne vient que pour les Juifs. Élie fut un prophète pour toutes les nations, alors que Moïse, lui, ne fut un prophète pour les Juifs et un législateur qui donnait les lois. C'était son message, la loi. Mais quel fut le message d'Élie? Il s'adressait aux femmes aux cheveux coupés, aux dénominations. Ah oui. Il les a vraiment réprimandés. Ces femmes au visage peint, il leur dit qu'elles seraient jetées en pâture aux chiens. Il les a mis en pièces. Et quand son esprit est venu sur Jean, ces derniers sortis du désert, en frappant du pied, il a fait la même chose. Il a dit, ne pensez pas que vous appartenez à ceci ou à cela. De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Puis il continue à sa route et il dit, et tu viens me dire que tu as épousé ton propre beau-frère? La loi te défend de le faire, oh frère. Il leur disait les choses, certainement. Ces âmes doivent attendre encore une petite saison que les 144 000 aient subi le martyre. Est-ce que ça n'assemble pas toute la Bible? Si je vais vous laisser partir un petit peu plus tôt, je vois que mon temps est terminé, je sais qu'il fait chaud, vous transpirez, mais j'ai quelque chose à vous dire, cela. C'est si bon que ça brûle dans mon cœur. J'espère que vous n'avez pas oublié, voyez. Laissez-moi vous dire ceci en sa présence. Par sa grâce, il a aussi fait voir les miens, il n'y a pas longtemps, en robe blanche. Souvenez-vous? Vous souvenez de l'histoire, il n'y a pas longtemps? L'épouse des nations. Ils sont là-haut maintenant, ayant tous revêtu une robe blanche. J'ai été à une réunion, ça se passait il y a environ un an. Je me suis réveillé un matin, et en me soulevant, j'ai dit, chérie, mon épouse, elle ne bougeait pas. Je devais me lever et conduire les enfants à l'école ici tout près. Je me suis levé là dans le lit, vous savez, ces vieux lits à l'ancienne mode, il y a une sorte de grand panneau de côté de la tête pour qu'on puisse s'y appuyer. Et j'étais appuyé comme ça et je pensais, mon vieux, tu as déjà 53 ans. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu ferais bien de t'y mettre, parce que dans quelque temps, tu seras trop vieux. Je pensais, oui, c'est vrai. Mon vieux, tu sais, tu n'es pas encore allé très loin, tu devras bientôt t'en aller. Tu as vécu déjà un an de plus que ton père. Et tu vas bientôt devoir partir. Et je pensais, je n'ai encore rien fait pour Dieu. J'aurais toujours aimé faire quelque chose pour lui. Il faut vraiment que je me dépêche de le faire. Mais si je veux le faire, je ne sais pas comment je vais le faire, voilà tout. Et je pensais, j'espère que j'y vivrai pour voir sa venue. Je ne tiens pas à être un fantôme ou un esprit. J'ai toujours eu peur des esprits. C'est comme si je devais rencontrer Frère Neville et le voir sur un petit nuage blanc. « Hello, Frère Neville !» Il me répondrait « Hello, Frère Branham !» Dans un autre sens, il ne pourrait pas parler. Je saurais parfaitement qu'il s'agit de Frère Neville. Je voudrais lui serrer la main, comme je fais toujours, parce que c'est tout ce que je sais faire en tant qu'être humain. Voyez, je voudrais lui serrer la main, mais il n'aurait pas de main. Il serait là, pourri au fond de la tombe. Voyez, je pensais, oh là là, j'espère que je n'aurais pas passé par là. Maintenant, je vous dis la vérité. J'avais peur de mourir, pas d'être perdu, mais je ne voulais pas être un esprit. Je voulais rester un homme, je voulais attendre l'enlèvement. Voyez, je voulais rester comme cela. Je ne voulais pas devenir un esprit, alors que j'ai été étendu en pensant à ça. Tout à coup, quelque chose est arrivé. Vous savez tous et vous connaissez tous les visions. Si c'était une vision, je n'en ai jamais eu une pareille. Et j'en ai eu depuis que je suis un petit garçon. Tout à coup, quelque chose s'est passé. Je me suis senti partir. Je disais, oh oh, je suis déjà mort, je suis parti, et je suis arrivé quelque part, et je pensais, je crois que je vais regarder en arrière, et c'est aussi réel, les amis, que je suis là. Je me suis retourné pour regarder, et j'étais là, étendu sur le lit. J'étais étendu, couché à côté de ma femme. Je pensais, eh bien, j'ai peut-être une crise cardiaque. Je pensais, eh bien, je suis mort instantanément. C'est une belle manière de s'en aller. Je pensais, c'est une crise cardiaque, j'ai pas dû souffrir. Je regardais, eh bien, c'est étrange. Je suis couché là-bas, et me voici debout ici. Je me suis retourné, et je vis comme un grand champ, un grand champ avec de l'herbe. Et je pensais, je me demande ce que c'est. Et tout à coup, tandis que je regardais, je vis accourir des milliers de jeunes femmes, toutes en robe blanche, de longs cheveux jusqu'à la taille, pieds nus. Et elles couraient vers moi. Je pensais, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis retourné, je regardais en arrière, je me voyais là, puis je regardais vers le haut, dans cette direction. Et je disais, je me suis mordu le doigt. Je ne suis pas endormi. J'avais des sensations et je me disais, quelque chose de bizarre. Et toutes ces femmes qui arrivaient, je n'avais jamais vu de femmes aussi jolies. Elles venaient toutes vers moi. Elles couraient vers moi. Et j'ai dit, on dit que je déteste les femmes, mais ce n'est pas vrai, vous voyez. Je pense qu'une bonne femme, c'est un joyau. Mais je pense qu'une qui n'est pas bonne, comme Salomon a dit, c'est de l'eau dans votre sang. Ainsi, je n'ai pas besoin de femmes de mauvaise réputation ou de femmes émancipées. Dans cette vision, toutes ces femmes qui s'approchaient, commencèrent à m'entourer de leurs bras. C'est quelque chose d'inhabituel, maintenant. Je ne tolérerai pas ça. Je vais devoir dire cela d'une certaine manière, parce que je suis dans une assemblée mixte. C'était des femmes. Et chacune d'elles m'a serré dans ses bras, en disant, « Notre précieux frère !» Et l'une est venue me serrer dans ses bras, une autre. Et je regardais là, et je pensais, « Mais qu'est-ce que c'est ?» Je me tenais là, en pensant, « Qu'est-il arrivé ?» Je regardais en bas, j'étais toujours couché là, et j'étais toujours debout, et je pensais, « C'est bizarre, je ne comprends pas. » Et ces femmes qui criaient, « Oh, notre précieux frère !» Et elles me serraient dans leurs bras. Et je, à leur contact, je sentais en toute chose que c'était des femmes véritables. Et pardonnez-moi, mes sœurs, si je dis ça, mais écoutez votre médecin. Et si nous avons une pensée pure, et que nous ne sommes pas des chrétiens, ma vie a toujours été pure, Dieu le sait. Lorsque j'étais un petit garçon, l'ange du Seigneur m'a ordonné de ne pas souiller mon corps, de ne pas fumer ni boire, c'est la vérité. Et par la grâce de Dieu, j'ai gardé cela. Quand j'étais encore un pécheur, je ne courais pas avec les femmes. Mais si un homme laisse une femme la serrer dans ses bras, lui étant fait avec des cellules mâles et elle de cellules femelles, il y a toujours une sensation. Qui que vous soyez, ne me dites pas que vous n'êtes pas ainsi si vous êtes une personne en bonne santé, mais pas là. Parce qu'il n'y a plus de cellules différentes. Là-bas, vous ne pécherez plus jamais. Il y a un changement. Il n'y a simplement rien d'autre qu'un amour fraternel envers ces femmes. Vu avec les yeux de la grâce, je pense qu'une femme, de bien qui se conduit correctement et se comporte comme une dame, est l'exemple d'un joyau sur cette terre. J'aime tout ce qui est gracieux. Je pense que si ce n'est pas le cas, c'est simplement comme le Christ. C'est comme une statue, oui. Je pense que c'est comme simplement le Christ et l'Antichrist, c'est la même chose. J'aime tout ce qui est naturel. C'est comme un beau cheval, il témoigne de ce qui est vraiment un beau cheval, ou quelque chose comme cela, une belle montagne, une belle femme, un bel homme, tout ce qui est dans la manière de faire de Dieu. J'ai toujours admiré cela. Ce sont des choses parfaites. Mais ces femmes avaient beau me serrer dans leurs bras, et comprenez bien, c'était des femmes, comprenez, mais il ne pouvait pas y avoir de péché. Les glandes mâles et les glandes femelles étaient parties. Merci Seigneur. Elles étaient mes sœurs. Je regardais mes mains, et je vois qu'elles étaient aussi jeunes. Et je regardais, et j'étais moi jeune aussi. J'ai perdu mes cheveux quand j'étais un jeune homme parce qu'un coiffeur m'a versé de l'acide carbonique sur la tête quand j'étais un garçon. Et ça a toujours été une affaire pour moi parce que j'ai toujours le cuir chevelu très délicat. Vous savez, je m'enrhume très facilement. Les racines de mes cheveux sont toujours là, mais elles ont été brûlées par le phénol et les cheveux ne peuvent plus jamais repousser. Il y a longtemps de cela, je demandais à ma femme de me procurer une sorte de petite perruque pour me couvrir la tête. Mais ça m'a toujours gêné. J'étais toujours honteux de la porter parce que ça veut dire quelque chose de faux. Et je ne veux rien de faux. Alors je me suis dit, eh bien, je vais simplement porter Un petit chapeau là, vous savez. Ils voulaient m'appeler évêque avec cette petite calotte sur la tête, alors je cessais de la porter et je me résignais à attraper de gros rhumes, mais vous pouvez simplement ouvrir les fenêtres et laisser entrer un peu d'air. Je suis déjà enrhumé. Je suis allé voir un médecin, lui demander son avis. Il m'a dit, eh bien, après avoir prêché, vos pores sont ouverts et vous êtes en sueur, alors vous prenez un courant d'air et vous envoie un microbe de rhume et cela descend dans votre gorge et le lendemain vous êtes enroué. Voilà. Et vous autres qui avez tous vos cheveux, vous ne savez combien vous devriez être reconnaissant. C'est vrai, j'ai découvert qu'un de ces jours, je vais aussi perdre mes dents et qu'il me faudra un dentier ou alors me passer de mes dents. Voyez-vous, je pense que c'est la même chose pour un homme s'il désire porter une perruque pour qu'une femme ou pour une femme de porter un de ses postiches ou quoi que ce soit ou ce qu'elle met dans ses cheveux pour les arranger. Voyez, mais bien sûr que si vous le faites, tout dépend de la raison pour laquelle vous le faites. Voyez-vous, pourquoi vous le faites. Mais en me tenant là-bas, je sentis que j'avais de nouveau mes cheveux. Oh là là, j'étais jeune, et toutes ces jeunes femmes, je pensais, n'est-ce pas étrange? Mais voilà, et je les voyais toutes courir. Et en les regardant, j'ai vu Hope à s'approcher. Vous savez, elle est morte à 22 ans. Elle était toujours aussi jolie. Beaucoup d'entre nous se souviennent de ses grands yeux sombres et de sa longue chevelure noire qui descendait jusque dans le dos. Elle était allemande. Je pensais, lorsqu'elle viendrait, elle m'appellera Bill. Je sais qu'elle va dire Bill quand elle va venir. Je regardais. Chacune de ces femmes venait me serrer dans ses bras. Notre précieux frère, nous sommes si heureux de te voir. Il semblait qu'elles étaient toutes habillées de la même façon, mais leurs cheveux étaient différents, vous savez, des rousses, des blondes, des brunes. Mais tout était jeune. Et lorsque Hope s'est approchée, je pensais, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle m'a regardé et elle a dit, oh, notre précieux frère. Et elle m'a serré dans ses bras. Et elle est simplement partie, ainsi. D'autres femmes sont venues me serrer dans leurs bras ensuite. J'ai entendu un bruit, je regarde dans cette direction. Et voici qu'un groupe de jeunes hommes se sont approchés. Tous d'environ 20 ans, des cheveux noirs, d'autres blonds, avec des robes blanches et pieds nus. Et ils accouraient tous et se mirent à me serrer dans leurs bras en criant notre précieux frère. Je me suis retourné et j'étais toujours couché là. Je pensais, eh bien, c'est bien étrange. Et juste à ce moment-là, une voix s'est mise à me parler. Il a dit, tu as été réuni. Tu as été réuni avec les tiens. Alors un homme m'a saisi et m'a déposé sur quelque chose de grand. Il m'a dit, sur la terre, tu as été un conducteur. Eh bien, je ne comprends pas cela. Et cette voix continue à me parler, je ne pouvais pas la voir. Elle me disait, eh bien, si je suis mort, j'aimerais voir Jésus. Il est toute ma vie, j'aimerais bien le voir. Et alors il m'a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est encore plus haut. Voyez, ça se passe sous l'autel, le sixième endroit où l'homme va. Voyez, non pas le septième. Avant le septième, il faut passer par le sixième. Ils étaient tous là. Ils pensaient qu'il y en avait des millions. Quand j'étais là, ces hommes et ces femmes passaient continuellement vers moi, serrés dans leurs bras, ils m'appelaient leur frère. Il m'a dit, tu as été réuni avec les tiens, comme Jacob a été réuni à son peuple. Et j'ai dit, tous ceux-là sont les miens? Ce sont tous des Branham? Et il m'a dit, non, ceux que tu as convertis à Christ. En regardant autour de moi, je vis approcher une femme vraiment jolie. Elle avait les mêmes apparences que toutes les autres. Elle jeta ses bras autour de moi en disant, mon précieux frère. Et je pensais, oh, elle a l'air d'un ange. Elle se retira et la voix me dit, l'as-tu reconnue? Je dis, non, je ne l'ai pas reconnue. Elle m'a dit, tu l'as conduite à Christ. Quand elle avait passé 90 ans, tu sais pourquoi elle pense tellement à toi? Je dis, cette jolie fille avait plus de 90 ans, et la voix dit, elle ne peut plus changer maintenant. C'est la raison pour laquelle elle a dit, mon précieux frère. Et moi, j'avais peur de cela, mais tous ces gens sont réels. Ils n'allaient nulle part, ils n'étaient pas fatigués d'être là. Et je dis, eh bien, pourquoi ne puis-je voir Jésus? Et la voix, il viendra un jour, il viendra vers toi. Premièrement, et alors tu seras jugé. Ces gens, ce sont tes convertis que tu as conduits. Et je lui ai demandé, tu veux dire qu'il me jugera en tant que conducteur? Oui. Et j'ai dit, chaque conducteur doit-il être jugé de la même manière? Oui. Et j'ai dit, qu'en est-il de Paul? Il doit être jugé avec les siens. Eh bien, si son groupe entre, alors le mien entrera aussi, parce que j'ai prêché exactement la même parole. Quand il baptisait au nom de Jésus, je l'ai fait aussi. Et il y en avait des millions qui ont crié. Nous nous reposons là-dessus. Et je pensais, oh là là, si seulement j'avais su ça avant de venir ici, j'aurais fait venir les gens ici. Ils ne peuvent pas se permettre de manquer cela. Et la voix dit, un jour, il viendra. Et alors, ici, nous ne mangeons, ni ne buvons, ni dormons, nous, simplement tous un. Eh bien, ce n'est pas seulement parfait, c'est au-delà du parfait. Ce n'est pas seulement sublime, c'est au-delà du sublime. Il n'y a aucun nom auquel nous puissions penser, il n'y a aucun mot dans notre vocabulaire pour le dire. Vous êtes simplement arrivé, c'est tout. Alors je disais, eh bien, ce sera parfait. Alors, qu'allons-nous faire ensuite? Alors, quand Jésus viendra, il te jugera pour ton ministère. Ensuite, nous revenons sur la terre et nous prendrons un corps. Eh bien, je n'avais jamais pensé à cela, mais c'est exactement les Écritures. Alors, il me dit, ensuite, nous revenons sur la terre, nous prendrons un corps, puis nous mangerons. Ici, nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas. Mais là-bas, nous mangerons, nous retournerons sur la terre. Je pensais, oh là là, n'est-ce pas merveilleux? Oh là là! Et moi, j'avais peur de cela. Pourquoi avoir peur de mourir si c'est pour en arriver à ceci? C'est la perfection, plus la perfection, plus la perfection. C'est merveilleux. Voyez, nous étions là, juste sous l'autel. C'était ça. Sous l'autel, attendant sa venue. Quand il pourrait venir prendre pour le ressusciter ceux qui étaient endormis, ceux dont le corps était endormi dans la poussière. Quand il viendra, il nous ressuscitera de la même manière que Jésus, quand il a traversé le paradis, il a enlevé Abraham, Isaac et tous les autres, vous savez, qui s'attendaient à la première résurrection. Ils entrèrent dans la ville et apparurent à beaucoup, parfaitement scripturaire. Il y avait là une vision ou quoi que ce soit, et c'était parfaitement scripturaire. Et je me dis, n'est-ce pas merveilleux? Et tandis que je pensais à cela, j'entendis comme un hennissement de cheval. Et je regardais, et c'était mon petit cheval de selle que j'avais l'habitude de monter. Je pensais, je l'aimais tellement. Il était là, près de moi. Il a appuyé sa tête sur mon épaule comme quand je lui donnais un morceau de sucre. Vous savez, je pensais, le bras autour de son cou, je disais, Prince, je savais que tu serais là. Quelque chose a léché ma main. C'était mon vieux chien de chasse. Quand M. Short l'a empoisonné, j'avais juré de le tuer pour cela. J'avais 16 ans. Il avait empoisonné. Mon père m'avait attrapé alors que j'avais pris mon fusil pour aller tuer cet homme. Juste dans le bureau de police, je lui ai dit, je vais le tuer. Je suis allé vers la tombe de mon chien et j'ai dit, Fritz, tu as été un compagnon pour moi. Tu m'as protégé, tu m'as accompagné à l'école. Quand tu serais devenu vieux, j'aurais pris soin de toi. Et maintenant, ils t'ont tué, Fritz. Je te promets que cet homme ne vivra pas. Je te promets qu'il ne vivra pas. Je vais l'attraper sur la rue un jour et je vais lui tomber dessus. C'est pour toi que je le ferai. Mais vous savez quoi? J'ai conduit cet homme à Christ. Je l'ai baptisé au nom de Jésus. Et c'est moi qui l'ai enseveli quand il est mort, en effet. J'étais même pas converti. Je me suis converti quelques années après cela. Et à ce moment-là, j'aimais cet homme au lieu de le haïr. Et voilà Fritz qui se tenait là, me léchant la main. Et je regardais. Je ne pouvais pas pleurer. Personne ne pouvait pleurer. Tout était joie. Vous ne pouviez pas être triste parce que tout était bonheur. Vous ne pouviez pas mourir parce que tout était vie. Vous ne pouviez pas vieillir parce que tout était jeunesse. Simplement parfait. Je pensais, n'est-ce pas merveilleux? Et ces millions, oh là là, j'étais vraiment à la maison, vous voyez. Et à ce moment-là, une voix qui a dit, tout ce que tu as jamais aimé, la récompense pour mon service. Je n'ai pas besoin de récompense. Il a dit, tous ceux qui t'ont jamais aimé, et tous ceux que tu as aimés, Dieu te les a donnés. Et j'ai dit, gloire au Seigneur. Je me sentais tout drôle. Je pensais, qu'est-ce qui se passe? Je me sens tout drôle. Je me retournais, regardais. Et là, sur mon lit, mon corps remuait. Je me disais, oh, il ne faut pas que je retourne là-bas. Ne me laisse pas retourner là-bas. Ne me laisse pas. Mais l'évangile devait être prêché. Et en une seconde, j'étais de nouveau sur mon lit. Voyez, comme cela. Vous avez pu lire le récit de cette vision il y a environ 2 mois dans Voice, le journal des hommes d'affaires chrétiens. Et frère Norman, je crois qu'il est ici quelque part, il a transcrit et il a fait un traité qui est allé partout. Et beaucoup de pasteurs m'ont écrit à ce sujet. Il y a eu des centaines, un de ces hommes a dit, frère Branham, cette vision décrite dans le Voice des hommes d'affaires chrétiens, et Tommy Nickel est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, il m'a écrit, bien qu'il ne fasse plus partie des hommes d'affaires chrétiens. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'hésitait pas à dire dans le journal trinitaire, vu que Paul baptisait au nom de Jésus et ordonnait aux gens de faire de même, moi aussi j'ai fait de même. Et il l'écrivit sans détour. Et je pensais, Et bien alors, dans sa lettre, ce pasteur disait, « Frère Branham, votre vision, bien sûr, cela pouvait avoir été une vision. Je n'aime pas beaucoup parler d'une translation. Si j'avais été emporté jusqu'au premier ciel et que j'ai vu toutes ces choses, alors qu'en est-il de Paul qui a dû voir en montant jusqu'au troisième ciel? Il a dit qu'il ne fut même pas possible d'en parler, vous voyez, quand il fut enlevé là-haut. Si j'ai été ravi en esprit, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. » Mais ce pasteur disait, « Frère Branham, votre vision semblait très scripturaire et très bien jusqu'au moment où vous avez parlé d'un cheval qui se trouvait là. » Il a dit, « Un cheval au ciel. » Vous voyez, la pensée, la sagesse humaine, ecclésiastique, il a dit, « Le ciel a été fait pour les êtres humains, pas pour les chevaux. » J'étais assis ici, et Billy, mon fils, qui est ici, avait posé la lettre ici même dans l'ancien bureau de l'église il y a 3 ou 4 mois. Et j'ai répondu, « Mon précieux frère, je suis surpris de votre sagesse et de votre connaissance des Écritures. Je n'ai pas dit que j'étais allé au ciel. J'ai dit que c'était un endroit semblable au paradis parce que Christ était encore plus haut. Mais si ça peut vous satisfaire, lisez dans Apocalypse 19 où Jésus sort des cieux, montant un cheval blanc et tous les saints sont avec lui sur des chevaux blancs. Vrai, absolument. Absolument. Et là-haut, dans ce même lieu, il y en avait un qui avait l'apparence d'un aigle et un autre semblable à un veau. Oh, mes frères, d'où venaient donc ces chevaux qui emportèrent Élie? C'est simplement pour vous montrer que la pensée humaine a toujours besoin d'avoir quelque chose à quoi redire, c'est vrai. Maintenant, remarquez, je pensais, comme ce bien-aimé et pieux Jean, frère, je pensais que ce serait bon le moment d'introduire cela avant de terminer. Si Jean a pu voir ses frères là-haut, ses frères qui devaient souffrir encore un peu, eh bien, à moi, le Seigneur Dieu m'a permis de voir mes frères et les saints qui attendent la venue du Seigneur. Vous remarquerez qu'ils n'étaient pas sous l'autel du sacrifice. Les miens n'y étaient pas. Mais là, c'était des martyrs. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez très attentivement. J'arrêterai de parler dans 10 minutes, à 10 heures, même si je dois m'interrompre pour finir demain. Le Seigneur m'a montré l'épouse. Elle n'était pas sous l'autel du sacrifice des martyrs, mais elle avait reçu des robes blanches en acceptant la parole vivante, la grâce qui pardonne. Dieu leur avait donné une robe blanche. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'en ouvrant ce cinquième sceau, celui-ci nous a été révélé. Je l'ai fait avec une bonne conscience, ayant reçu une claire révélation de Dieu, n'essayant pas d'exposer mes propres pensées parce que j'ai toujours été opposé aux organisations et n'ai jamais voulu en faire partie, mais maintenant il m'a été ouvert. Et je pense encore à une autre chose. L'ouverture de ce cinquième sceau en ce jour redresse une doctrine dont je pourrais parler ici, celle des âmes qui dorment. Je me rends compte qu'il y a des gens ici qui croient cela, voyez-vous, les âmes qui dorment. Je pense que cela dit le contraire ici. Ils ne dorment pas, ils sont vivants. Leur corps dorment, mais leurs âmes sont là, sous l'autel, dans la présence, voyez-vous. C'est là où je suis différent, en désaccord avec un frère bien-aimé ici. Je vois dans cette salle quelques-uns des siens, un grand docteur en théologie. C'est aussi un homme qui a doctorat en philosophie. C'est un homme réellement bon aussi. Je pense qu'il nous a quittés maintenant. C'était un brave homme et un bon écrivain. Et c'est frère Uriah Smith, l'auteur du livre de Daniel de la Révélation. Maintenant, pour vous, les gens qui suivent son enseignement, je ne veux pas parler ceci avec arrogance, mais voyez-vous, mes frères Smith, pour appuyer sa thèse des âmes qui dorment, dit qu'il n'y a pas d'autel du sacrifice dans le ciel, mais qu'il croit que le seul autel dont il est parlé dans le ciel est celui de l'encens, des parfums. Mais à vous, chers frères, je dis ceci non pas pour contredire mon frère, que j'espère revoir de l'autre côté, non pas pour contredire ce grand docteur, mais simplement pour vous montrer la contradiction. Ce qu'il contredit, l'ouverture de ce sceau dans ces derniers jours, ce sceau annule totalement cette doctrine des âmes qui dorment. Ces âmes sont vivantes, elles ne sont pas mortes. Remarquez maintenant. S'il n'y avait pas d'autel du sacrifice dans le ciel, où serait déposé l'agneau, le sacrifice pour le péché? L'agneau. Il doit y avoir un endroit où se trouve l'agneau sanglant, immolé. Un lieu où se trouve le sang. L'encens était cette matière odorante que l'on brûlait, dont la Bible dit qu'il est les prières des saints. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, les prières ne peuvent pas être reçues. Ce n'est que par le sang qui est sur l'autel du sacrifice que les prières peuvent passer jusqu'à Dieu. Frère Smith avait tort. Je n'ai rien contre lui. J'espère que j'étais assez clair et dans l'amour fraternel pour sa grande œuvre. Mais il était dans l'erreur. Le cinquième sceau a ouvert cela. Et beaucoup d'autres choses. Maintenant, j'attends vos questions. Très bien. Où était l'arche? L'agneau sanglant qui avait été frappé, blessé, ensanglanté pour l'expiation, pour ses prières. Remarquez, la Bible dit que si ce tabernacle terrestre de notre demeure est dissous, nous en avons un autre qui attend déjà. C'est là que j'ai vu ces saints, voyez. Regardez maintenant quand un bébé, excusez-moi à nouveau les sœurs, de parler si clairement devant les jeunes femmes, mais regardez, quand une mère a conçu et que ce petit paquet de muscles se tortille et remue, vous comprenez? C'est un corps naturel. Et tout comme la nature accomplit et forme un corps naturel, avez-vous remarqué? Votre femme, avant que naisse le petit enfant, elle devient particulièrement douce et affectueuse, et ça jusqu'à la fin. Même si elle ne l'a jamais été toute sa vie, elle le sera alors. Avez-vous jamais remarqué ce sentiment de sainteté? On voit quelquefois un pécheur se moquer d'une femme enceinte. Je pense que c'est ridicule. C'est la vie qui entre dans le monde. Avez-vous aussi remarqué cette sorte de douceur, de tendresse qui entoure la mère, la future mère? Qu'est-ce que c'est? C'est la vie spirituelle qui attend d'entrer dans ce petit corps aussitôt qu'il sera né. Avant, il est seulement engendré, mais quand il est né, il est né. Le corps spirituel s'unit au corps naturel. Et la Bible nous enseigne que nous sommes maintenant engendrés de Dieu. Nous sommes engendrés du Saint-Esprit, qui est Christ en nous, un Fils de Dieu, étant formé en nous. Et quand ce corps terrestre se dissout, le corps spirituel sort des entrailles de la terre, et il y a un autre corps qui attend pour le recevoir. Si ce tabernacle terrestre est abandonné, il y a un autre corps pour recevoir. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Le terrestre revêt le céleste. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a un corps naturel qui est pécheur, mais il y a un autre corps vers lequel nous allons, et qui est semblable au premier dans sa constitution. Et je suis si reconnaissant à Dieu de pouvoir vous dire, en tant que votre pasteur et votre frère, j'ai vu ces gens en pleine santé dans ce corps. Je les ai touchés de ma main. C'est vrai. Maintenant, regardez. Regardez Moïse. Élie. Après que Moïse soit mort et qu'il ait été emporté au ciel, il s'est tenu sur la montagne de la transfiguration avec son sens du parler, de l'ouïe, avec sa compréhension, et il a parlé à Jésus avant la crucifixion. Quel genre de corps avait-il? Regardez Samuel. Après être mort environ 2 ans, la magicienne, la sorcière, la dent d'or, l'a fait apparaître là. Et il a parlé avec Saül. Il lui a répondu, il connaissait les choses qui allaient arriver. Son esprit n'avait pas changé. Il était encore un prophète. Et lorsque l'esprit d'Élie descend sur un homme, il conduit cet homme comme il conduisit Élie. Cet homme ira dans le désert, il aimera le désert, il haïra les femmes immorales, il s'opposera aux organisations, il n'épargnera personne. Voilà ce que fera son esprit chaque fois qu'il est venu. Il a fait cela. Pour Moïse, il en sera de même. Maintenant, et nous voyons dans Apocalypse 22:8 la même chose. Pour régler cette question des âmes, regardez, sous l'autel, retourne dans l'ouverture de ce sceau, où nous trouvons sous l'autel les âmes de ceux qui ont été mis à mort entre la période. Dans la période entre la mort de Christ et l'enlèvement de l'Église, ceux qui ont été massacrés par Eichmann et tous les autres, tous les vrais juifs dont le nom est inscrit dans le livre, si vous observez mes frères, selon les Écritures, elles pouvaient parler, appeler, parler, entendre, ayant tous leurs 5 sens. Ne dormaient pas dans un tombeau, mais elles étaient parfaitement éveillées, pas inconscientes, mais pouvaient parler, entendre et tout le reste. N'est-ce pas vrai? Oh, que Dieu nous aide. Encore 2 minutes. Amen. Je regrette de vous avoir gardé. Je ne devrais pas dire cela. Mais voyez, au mieux de ma compréhension et selon la révélation qui m'a été donnée ce matin, juste avant qu'il ne fasse jour par le Seigneur Jésus-Christ, voici le 5e sceau ouvert, en accord avec les 4 autres. Par sa grâce, il me l'a donné. Sa grâce pour vous et moi, nous le remercions pour cela. Et avec son aide, j'ai l'intention de vivre aussi près que possible de sa parole, enseignant aux autres à faire la même chose, jusqu'à ce que je rencontre avec vous dans la gloire, quand toutes choses seront terminées. Je l'aime pour cela. Et je vous ai dit ces choses au mieux de ma connaissance, et je crois vraiment de tout mon cœur que la vraie révélation des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e sceaux est faite et que maintenant ces sceaux nous sont ouverts. Maintenant, calmement et avec respect devant Dieu, alors que nous avons vu s'ouvrir ce sceau pour nous, Dieu ayant dû prendre ses propres enfants bien-aimés et les aveugler et les renvoyer parce que sa propre justice exige le jugement du péché. Pensez-y. Sa justice et sa sainteté exigent la justice. Une loi sans punition n'est pas une loi. Et il ne peut pas lui-même braver sa propre loi et rester Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu dut devenir homme. Il ne pouvait pas prendre un substitut, un simple fils ordinaire ou quelque chose d'autre. Et Jésus devint à la fois fils et Dieu. Le seul moyen de l'accomplir justement. Il fallait que Dieu prenne la punition lui-même. Il n'aurait pas été juste de la mettre sur quelqu'un d'autre, une autre personne. Ainsi, la personne de Jésus était Dieu, manifestée dans la chair, appelée Emmanuel. Et pour faire cela, pour prendre une épouse et pour sauver une bande de païens perdus des nations, il dut aveugler ses propres enfants et ensuite les punir dans la chair pour l'avoir rejeté. Mais sa grâce a pourvu et leur a donné des robes blanches. Vous voyez ce qui se passe. Et s'il a dû faire cela, afin que nous ayons une chance, comment pouvons-nous rejeter cette chance offerte par amour? S'il y a dans cette salle ce soir une personne jeune ou âgée qui, ayant jusqu'à ce jour rejeté cette opportunité, qui a coûté un tel prix à Dieu, et que cette personne veuille accepter cette offre que Dieu lui fait ce soir. Autant que je sache, on n'a pas besoin de subir le martyr, bien que c'est possible, mais une robe blanche a été préparée pour vous. Et si maintenant Dieu frappe à votre cœur, pourquoi ne pas l'accepter? Inclinons de nouveau la tête. S'il y a ici une ou des personnes qui désirent cela, qui désirent l'accepter sur la base de leur foi dans le sang répandu que Dieu a dû répandre pour vous, il a souffert au-delà de ce qu'aucun mortel aurait pu souffrir. Il n'y a aucun être mortel qui aurait pu souffrir pareillement, au point que sa propre souffrance sépara l'eau du sang dans ses veines. Avant de monter au calvaire, des gouttes de sang sortirent de son corps, tant sa douleur était grande et son cœur brisé par ce qu'il devait faire. Il aurait aussi pu refuser, mais il le fit volontairement pour vous et moi. Pouvez-vous rejeter un amour aussi incomparable? Et vous voyez cela maintenant par l'ouverture de ces sceaux, que c'est ce que vous avez fait. Voyant ce que Dieu a fait pour vous, êtes-vous prêt à lui abandonner votre vie? Et s'il vous arrache des mains de l'Antichrist dans lesquelles vous êtes maintenant, accepterez-vous son offre en levant la main vers lui, en disant, « Oh Dieu, par ce geste, j'atteste que j'accepte cette offre de grâce. Et frère Branham, je désire que vous priez pour moi, afin que je reste toujours fidèle. Levez la main et je prierai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pensez-le maintenant. Ne le faites pas, à moins de le penser réellement. Et acceptez-le à l'endroit même où vous êtes assis. Parce que souvenez-vous, vous n'auriez pas pu lever la main si quelque chose ne vous avait dit de le faire. Et rien d'autre que Dieu n'aurait pu le faire. Maintenant que vous avez vu les Écritures si clairement déployées, vous voyez ce qui s'est passé tout au long des âges, et vous le voyez parfaitement confirmé dans ces 20 ou 30 dernières années. Vous le voyez confirmé. Vous voyez les Écritures dire exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Alors, sur la base de la foi dans l'œuvre de Christ sur laquelle vous vous tenez maintenant même, vous avez levé la main et vous dites, dès cette minute, c'est réglé. Je prends Christ maintenant pour mon sauveur et je vivrai pour lui le reste de ma vie et je désire que Dieu me remplisse du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, le bassin vous attend. Prions. Seigneur Dieu, un grand nombre de mains se sont levées dans l'assemblée. Je suis sûr que tu es ce Seigneur Jésus lui-même qui a fait l'expiation pour nous il y a de nombreuses années. Lorsque je vois la révélation de ces sceaux et toutes ces choses glorieuses qui ont eu lieu ici ces dernières années, je crois de tout mon cœur que la porte de la grâce commence à se fermer et que tu es prêt maintenant à entreprendre le voyage pour racheter ton peuple. Pendant qu'il y a encore de la place et qu'une porte est ouverte, comme il en était au jour de Noé, que ces âmes précieuses qui vivent dans le corps de ce tabernacle qui sera dissous un jour, ont levé du plus profond de leur cœur cette main mortelle avec cette conviction profonde, proclamant qu'ils croient et désirent accepter ta proposition de salut pour le salut sur la base de ce livre scellé qu'il a ouvert pour nous. Donne-leur ce soir, Seigneur, une robe de la justice de Jésus-Christ et revêt leur âme dedans afin qu'ils puissent subsister devant toi en ce jour qui est très proche, parfait par le sang de Christ. Seigneur Dieu, s'ils n'ont pas été baptisés dans le nom de Jésus-Christ, sur la révélation que tu m'as donnée à ce sujet, et voyant que Paul ordonna à ceux qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste lui-même d'être rebaptisés au nom de Jésus-Christ afin de recevoir le Saint-Esprit, Acte 19, je te demande de les convaincre, Seigneur, que c'est la vérité. Et puissent-ils t'obéir? Et alors, ayant accepté d'obéir à leur confession, et après avoir passé par l'eau, puisses-tu en retour les remplir du Saint-Esprit pour qu'ils aient le pouvoir de servir le reste de leur vie? Je te les confie maintenant au nom de l'agneau sacrifié de Dieu Jésus-Christ. Amen. Maintenant, à vous qui avez levé la main, obéissez au commandement de l'Esprit qui veut vous faire suivre la constitution de la parole pour les pécheurs repentants. Suivez-le dans chaque acte et que le Dieu du ciel vous récompense pour votre position pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Demain soir, prenez votre papier et vos crayons comme vous l'avez fait. Nous pensons être ici à la même heure, 7h30 précise, Dieu voulant. Priez pour moi afin que je sois capable d'ouvrir le sixième sceau comme il me le donne. Jusque-là, nous chantons encore, non pas seulement pour lui, mais en louange de celui qui est mort à notre place et nous a rachetés. Je l'aime.